Homéopathie ? Pauvre Juliette. Celle-là, vous la connaissez tous. Mais si, c'est l'histoire d'un mec, normal, noir, planté devant une pharmacie homéopathe, un mec compatissant en somme. Donc si le thème de ce soir avait été l'homéopathie, on était parti pour une franche partie de rigolade. Mais des blagues qui commencent par ostéopathie. Ah bon, moi j'en ai pas trouvé. Hein. Brièvement, on évoque en tout cas ce soir les médecines dites douces ou parallèles, celles que la médecine générale en France ne reconnaît pas toujours, même si de plus en plus. Les autorités publiques et les patients que nous sommes, vous et moi, probablement plus vous que moi, parce que moi, la patience, bon, ont bien raison d'être vigilants et de ne pas confier la santé au premier clampin venu, prescripteur de poudre de perlimpinpin. Cela dit, les remèdes de cheval, pilule à tout craint, si j'ose, trop souvent prescrits à la demande des malades supposés par des médecins pas contrariants et grâce au lobby des labos, lobby de la puissante industrie pharmaceutique, sont-ils la panacée ? Eh bien non, on répond non, ce n'est pas la panacée. Panacée universelle, un pléonasme au fait, il fallait que ce soit dit. Si ceux qui nous gouvernent mettaient la même volonté politique à interdire les pesticides, herbicides, rejets de fumée, d'usines, d'incinérateurs, pardon, de véhicules, les plats préparés, bourrés de sucre, sel, graisse et OGM, qu'ils en mettent à interdire le tabac, même au camionneur seul dans sa cabine, s'ils œuvraient contre le bruit du marteau de piqueur, des aéroports et autoroutes, contre le harcèlement moral au boulot, la traque du faux chômeur, le travail répétitif, s'ils incitaient à la solidarité, l'harmonie, la jouissance, bref, si mens sana in corpore felix, peut-être que plus personne ne serait jamais malade. On en est loin. Alors merci à tous ceux qui travaillent pour nous soigner et pour plus largement notre bien-être, les médecins et infirmières, kinés, homéopathes, aux artistes et aux jardiniers, aux écologistes et à nos deux invités de ce soir, Baptiste Brunel et Sophie Lécuyer, ostéopathes de profession. Radio Apple Pie, Emmy Public numéro 104, ça tourne. D'ostéopathie, donc, vous l'aurez bien compris, il en sera question tout à l'heure avec nos invités qui s'appellent Sophie Lécuyer et Baptiste Brunet. Mais pour l'instant, pour continuer dans notre nouvelle formelle, cette petite partie magazine, qui je crois ce soir sera particulièrement brève, un petit tour de table, donc je crois Ludo, tu n'as pas noté spécialement de points d'actualité qui te turlupine ?
Le temps m'a manqué.
Ah, mais oui, ça.
Ce n'est que partie remise.
Par bien sûr.
Par Royal et tous nos amis.
Donc le Mans a tanké, c'est ça ?
Oui, oula ! Il y a des choses à dire.
Je n'osais le dire, pas pudeur.
Pas noté de points spéciaux, de coups de gueule ou de coups de cœur. J'en ai deux ou trois. Je serai brève, hein, franchement, avant de passer la parole à Pascal pour sa première chronique polar. Je voulais signaler qu'une femme vient d'avoir des étoiles au Goemio. Ouais, d'accord, on s'en fout, mais bon. En 33 ans d'existence... Ah, nous n'avons pas les mêmes sources. Bon, écoutez, amis du public, on en reparle quand vous voulez.
Il y en a eu il y a 33 ans, ouais.
Bon,
74,
voilà.
Il y en
donc,
a eu.
Donc, ils ont réussi à maintenir les femmes au fourneau durant des millénaires. Quand je dis « ils », bon, le patriarcat en général, on dira. Avec assez peu d'exceptions, quand ça devient de la grande cuisine, ben voilà, c'est toujours, évidemment, les hommes, les grands chefs, etc. Et en France, le pays autoproclamé, quand même, de la grande gastronomie, le guide le plus célèbre, mais, bon, selon mes sources, plus de 30 ans à reconnaître le talent d'une femme. Donc, voilà, ça m'a un peu énervée. Ce qui m'a énervé encore plus, c'est d'avoir appris incidemment, en regardant Arte Reportage, évidemment qu'on vous conseille une fois de plus, 800 baleines en un mois. C'est l'objectif que se fixe le Japon, au mépris des lois internationales de protection des espèces. Vous avez bien compris, c'est 800 baleines à massacrer, quoi, carrément. Imaginez les milliers de tonnes de sang dont la mer sera rougie bientôt, voilà, pas plus. Juste un petit clin d'œil aussi à Baptiste et Sophie, à l'ostéopathie en général. J'ai revu avec un grand plaisir hier un film qui s'appelle Rire et châtiment, qui est absolument excellent avec José Garcia. Bon, il a peu de rapport avec votre profession, mais du moins, le personnage principal est ostéopathe. Bon, voilà. Et hélas pour ses patients, on pourrait dire, parce que lui, effectivement, c'est pas toujours facile, ni pour les patients de son collègue acupuncteur, vu qu'il rentre sans arrêt dans le cabinet au moment où il y a des choses quand même très fines à faire avec des aiguilles au niveau facial. Autant pour l'excellent José Garcia. Est-ce qu'on écoute le Brassens de la quinzaine avant ta chronique ou veux-tu la parole tout de suite, Pascal ?
Non, écoutez le Brassens.
D'accord.
Je ne peux pas m'empêcher d'écouter d'abord le Brassens.
C'est bien.
Tellement bon.
C'est un principe. Alors, encore clin d'œil hein, à l'ostéopathie, la mauvaise réputation, même si on l'a dit, ça s'améliore quand même. Donc, la mauvaise réputation, c'est le titre du morceau qu'on va écouter et c'est toujours le même coffret. Éponyme, même s'il paraît que ça ne se dit pas. 3 CD, 2 20 morceaux de Brassens chez Philips. Voilà.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Bien entendu. Et au moment où on allait lui passer la parole, l'émotion sans doute, voilà, que tel l'amas de long, Pascal vient nous servir à boire et s'oublie. C'est beau, c'est abnégation.
J'aime bien m'oublier de temps en temps.
Donc, ton coup de cœur de la quinzaine, mon cher Pascal.
Eh bien, c'est un roman qui s'appelle L'inconfort des ordures, de Dominique Sigaud, qui est paru chez Babel Noir, chez Actes Sud, 9,50 €. Dominique Sigaud, c'est une ancienne en fait, journaliste reporter, reconvertie roman, qui est née à Paris en 59. Elle a parcouru tous les pays sous tension, style Algérie, couverte de nombreux conflits, style la guerre du Golfe. Et après avoir déposé ses valises, parce qu'un peu désabusée par certaines situations, elle se met donc à l'écriture de romans, s'inspirant de ses expériences. Et elle y décrit la violence du métier de reporter, l'absurdité de la guerre, l'incompréhension entre les hommes. Elle se fait remarquer avec ses deux romans, La vie là-bas, comme Le cours de l'Oued, en 97 sur l'Algérie, et Blue Moon en 98 sur les couloirs de la mort aux États-Unis, parce qu'elle est partie aussi aux États-Unis faire un reportage sur les couloirs de la mort, donc elle en retire un roman qui est vraiment très intéressant. En 2004, elle publie aussi The Dark Side of the Moon sur une jeune journaliste qui va recueillir en Amérique latine le témoignage d'un homme ayant survécu la torture, sauf qu'elle s'embarque dans une histoire qui n'est pas facile, parce que le mec en question est toujours... sous surveillance, et il quand même le témoignage qu'il donne le met vraiment en danger quelque part,
oui.
Ce qu'elle va découvrir au fur et à mesure. Donc roman noir au roman policier, il n'y a qu'à pas forcément vers le crime, après le glaçant De Chape et le Plomb qu'elle avait déjà fait paraître quelques années aussi avant, un thriller psychologique où autour du présumé suicide d'une femme, la romancière mettait en scène un face-à-face entre un psychanalyste retors, quand même quelque part, mari de la défunte, et un flic à l'ambition et au désir émoussé par ses années à côtoyer la nature humaine, le pire de la nature humaine et la détresse humaine. Là, la revoilà donc avec l'inconfort des ordures, l'histoire, un matin à Paris, des éboueurs dont on va traiter effectivement des traitements des corps d'une façon différente. Un matin, des éboueurs à Paris découvrent dans une belle ordure le corps de Justine Blanche, une escort girl de son état. L'enquête est confiée à Régine Partouche, une quinquagénaire. Oui, partout, c'est bizarre, hein, ça nous rappelle quelque chose forcément sur le Havre, entre autres.
L'intrigue se déroule dans un pasino.
Pas du tout. Donc, cette quinquagénaire est quand même sujette aux doutes et aux interrogations liées à son métier qu'elle exerce depuis une vingtaine d'années. Elle a un rapport assez dur, en fait, avec la violence et la mort, d'autant plus que ça lui rappelle certaines choses qu'elle a vécues en Algérie, dans son enfance. Et donc, quand elle voit les photos de ce corps... De cette femme, forcément, on se dit, ça ressurgit plein de choses, corps nu, etc., dans une belle ordure, ressurgit plein de choses qu'elle a vécues en Algérie. Et là, elle se dit, bon, c'est vraiment la dernière fois que je fais ce métier, et après, j'arrête. Son leitmotiv, tout le roman, en fait, après, j'arrête, parce que je suis peut-être allé trop loin, il faut vraiment que j'arrête. Alors, du coup. Elle se rend compte que quand même l'enquête va tourner essentiellement à la personnalité de la victime. Et il y a là la victime en question, un appartement à Paris. L'appartement, il est clean, mais nickel. C'est-à-dire que c'est une maniaque de la propreté. Donc à savoir ce qui s'est passé dans l'appartement, parce que j'ai quand même escort girl, donc je pense qu'elle a invité des clients. Est-ce qu'il s'est passé avec des clients?
Mais est-ce que quelqu'un est venu faire le ménage ou est-ce que c'est juste une manière
voilà.
de la propreté?
Exactement. Surtout que la victime s'appelle au départ quand même Soraya Nalaf, donc d'origine étrangère plus ou moins. Et la question qui va se poser, parce que Partouche, à partir de ce moment-là, se dit bon, l'appartement, c'est pas normal. Donc, j'ai quand même enquêté beaucoup plus loin sur la personnalité. Et donc, comme cette femme a été prostituée au départ avant d'escort girl et de venir à Paris. A été prostituée à Marseille et elle a connu un personnage influent dans les hautes sphères de la politique qui l'a amené à Paris.
Toute ressemblance.
Voilà, fortuite et forcément involontaire. Et à l'aide d'une amie de Justine, qui est aussi Oscar Girl, qui s'appelle, parce que j'adore ce nom en plus, Bilove la Tortue. Je trouve ça très très beau. Elle va vraiment se mettre en quête.
Si je devais prendre un pseudo,
je trouve ça vraiment sublime. Bilove la Tortue, je trouve ça vraiment très très beau. Elle va se mettre en quête en fait du protecteur de Justine. Sauf que peut-être la solution n'est pas forcément aussi simple, c'est pas aussi forcément lié aux hautes sphères, etc. Et Justine ne serait peut-être pas. Elle est aussi loin, c'est peut-être perdue par ambition, un pas du gain, ou chercherait-elle à oublier le mal dont elle souffrait, et par le même à s'oublier dans la rage de l'excès. Mais en fait, c'est un polar qui est mené d'une écriture acerbe, dure, en même temps très incisive, avec une fin simple, mais assez étonnante, surprenante, sur les tourments et les maux de l'âme humaine. Et peut-être que l'ostéopathie peut soigner les maux, éventuellement. Peut-être pas forcément les maux de l'âme elle-même. Mais pour une fois, s'il faut en venir aux mains, ça fera peut-être du bien, effectivement.
Pas mal.
En tout cas, écoutant un morceau de musique, ça ne peut pas faire de mal.
Bravo. Le premier morceau qu'on va écouter avant de passer la parole à Letty a été choisi d'ailleurs par nos invités. Et peut-être vous pouvez nous le présenter tout de suite. En même temps, vous vous rappelez de quel morceau il s'agit, Baptiste et Sophie? Je n'ai pas la playlist sous les yeux.
Oui, alors là, il s'agit d'un morceau de trio, Sortez les poubelles.
Eh ben, c'est raccord.
Alors, allons-y.
Sortez jeux les plus malsains.
Oh oui, j'en veux.
Allez, enfermez-les.
Enfermez-les.
Jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus respirer, qu'on les voit mourir, éjecter, lyncher pour le pire. La cage au milieu du salon aime avoir les fauves tournées en rond et se déchiqueter pour juste une poignée de fric. Rentrez dans le moule de l'Amérique, allez, saignez-vous donc en musique.
Donnez-nous du lys, de la guimauve ou du réglisse. Donnez de l'image à bouffer, pré-mâcher et pré-digérer.
Donnez-nous du bis, surgelez nos vieilles idées. Vive mon frigo, vive ma télé, il est plus vide qu'elle est blindée. Sortez-les, 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 sortez-les poubelles.
Sortez les ordures télévisuelles.
Sentez-les, 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 sentez-les au ciel.
Oh non,
je suis accro.
Étalez la maille, montrez qu'il y a que la thune qui vaille. Noyez-nous de publicité, engraissez-nous jusqu'à
éclater.
Mettez-nous les nerfs, étalez les femmes et leur chair. Blindez des plus beaux apparats, excitez-nous, excitez-nous. Rendez vos sponsors, à tout bout de champ, ça pue la mort. Gerbez nos envies, nos désirs,
empêchez-nous, empêchez-nous de partir.
Donnez-nous du vice, bouchez les escaliers de service. Allez séquestrer nos esprits, souriez, tout est permis. Tirez vers le bas, ma télévision adore ça. Et tous les meubles en sont jaloux, même mon chiot en est devenu fou.
Sortez-les, 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 sortez-les poubelles. Sortez les ordures télévisuelles.
Sentez-les, 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 sentez-les au ciel.
Oh non, je suis accro.
Donnez-nous du pire, réservez-vous pour l'avenir. Conservez votre mauvais goût.
Donnez-nous du pire, passez notre envie de réfléchir à coups de concepts débilissimes. Allez cracher nouveaux millésimes.
Je suis accro.
Conservez les coquets ou bien ronds, c'est le zoo des animateurs. Leur donnez pas de bouffe,
c'est pas l'heure.
C'est l'heure de sourire, servir de la niaiserie à mourir, à nous goinfrer, à nous gaver. C'est pour nous, c'est pour nous.
Divertir.
Donnez-nous de la meuf, décolorez-les en jaune de phare. Et souris-moi, souris-moi, et faites gicler vos proies.
Sortez-les, 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 sortez-les poubelles. Sortez les ordures télévisuelles.
Sentez-les, 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 sentez-les au ciel.
Oh non, je suis accro.
Donnez-nous des stars, de celles qui crachent dans leur bavoir. Et filmez leurs fêtes minables au fin fond de leur bac à sable. Et lâchez vos bombes, de celles qui sont nauséabondes. Inondez nos vies, nos foyers, vous êtes si présents qu'on est teubés. Donnez-nous du pire, réservez-vous pour l'avenir. Conservez votre mauvais goût pour les jours où vous serez à vous. Tirez vers le bas, ma télévision adore ça. Et tous les meubles en sont jaloux, même mon chiot en est devenu fou.
Sortez-les, 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 sortez-les poubelles. Sortez les ordures télévisuelles.
Sentez-les, 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 sentez-les au ciel.
Oh non, je suis accro.
Si je vous dis hausse, viscère, circulation du sang, vous pensez tous que je fais une allusion non dissimulée aux excellentes chroniques de Cinéma Bis orchestrées par Ludovic. Eh bien, il n'en est rien. Il s'agit d'une approche concernant le thème de l'émission de ce soir, l'ostéopathie. Qu'est-ce que l'ostéopathie ? Si je regarde dans mon dictionnaire, je trouve ostéon, os, et pathos, maladie. Autant dire maladie des os. Je ne pense pas pour autant qu'il s'agisse vraiment de cela. Plus exactement, nous pouvons traduire ostéopathie par maladie par l'os. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est Andrew Taylor Steele, fondateur de l'ostéopathie au XIXe siècle. Deux siècles plus tard, seulement reconnu en France en 2002, qu'en est-il de l'ostéopathie ? Pour vous parler de ce concept philosophique et thérapeutique, nous recevons ce soir Sophie Lécuyer et Baptiste Brunet. Tout Brunet et non pas Prunet et toujours pas Brunet.
On va y arriver.
On voulait pas mettre de nom de famille au début, tu vois, voilà. Donc voilà, Sophie Lécuyer et Baptiste Brunet, tous deux ostéopathes. Ils nous diront en quoi l'ostéopathie est une technique de soins à la fois préventif et curatif, mais aussi quelles sont leurs pratiques professionnelles et aussi les raisons pour lesquelles ils se battent pour qu'enfin soit reconnue cette thérapie qui a déjà fait ses preuves de par le monde. Bienvenue dans notre émission à Sophie et Baptiste.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors voilà, une fois qu'on a dit ça, tout est ouvert. Je ne sais pas par quoi vous aviez envie de commencer. Est-ce que c'est plus par justement style et l'invention, enfin les débuts, on va dire, de l'ostéopathie, ou par vos motivations personnelles? Qu'est-ce qui vous branche le plus?
On pourra peut-être commencer par justement l'origine de l'ostéopathie, un petit peu pour cadrer cette discipline, enfin plutôt cette médecine, ou on va dire cette thérapie, parce que on va choquer certains médecins. Donc à l'origine, en fait, c'est une pratique qui a été inventée par Andrew Taylor Steele dans les années 1874 d'ailleurs. Le fondateur donc l'a appelé ostéopathie pour dire justement l'os de la maladie. En voulant dire ça, il voulait dire justement que la structure pouvait influencer une fonction ou pouvait provoquer des troubles, et que en ajustant cette structure, on pouvait régler certains maux. Bon, c'est arrivé aux États-Unis. Il était issu d'une famille méthodiste. Il a beaucoup pratiqué sur des patients pendant la guerre de sécession. Il a fait de la chirurgie de guerre, tout ça. Et puis malheureusement, donc il y a trois de ses fils, de ses enfants qui sont morts d'une méningite cérébrospinale. Et de ce fait, il s'est posé la question, la médecine classique n'a rien pu faire, qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre pour améliorer ça, ou du moins pour faire avancer justement le schmilblick.
Bien joué.
Donc du coup, il s'est penché sur... il a travaillé beaucoup sur la mécanique. Hein. Il a été, c'est tout d'abord un mécanicien. Hein. Il a travaillé sur des machines, sur des tracteurs, sur des machines à beurre. Faut bien replacer ça dans le contexte de l'époque.
Oui, bien sûr.
Hein, où les techniques d'aujourd'hui n'étaient pas là. Et donc du coup, il a mis en place des techniques ostéopathiques qui se sont basées sur des pertes de mobilité du corps. Il a mis en place cette pratique. Il se s'est amélioré par rapport à son expérience de tous les jours. Il a vu que telle chose pouvait modifier telle chose, etc. Juste par les mains, juste en faisant des manipulations, en faisant des manipulations, c'est ce qu'on appelle ça.
On redéveloppera de toute façon au fur et à mesure la plupart des termes que tu emploies pour plus de clarté par des exemples concrets, mais c'est vrai que ça précise bien la généralité de la chose, le fondement.
Ouais. Donc ça, il faut bien replacer ça donc à l'époque ou à cette époque. Hein. Donc ça, c'est important. Maintenant, après, donc l'ostéopathie est arrivé ensuite en Angleterre, pour ensuite venir donc en Europe, en France dans les années 1950, où là des écoles, des champignons d'école se sont formés.
Oh, les champignons.
Ouais.
Coucou les champignons.
pour justement faire avancer l'ostéopathie en France.
Les champignons, c'est pas comme mon côté schtroumpf, tu veux.
D'accord, c'est ça, j'avais pas bien.
Vous voyez bien que t'étais un peu bleu quand même.
C'est bien la première fois sur les photos, je suis plutôt rouge. Hein.
En fait, ce qui est drôle, enfin qu'on voit dans la bande dessinée, on va en reparler aussi de cette bande dessinée, parce qu'on s'est quand même documenté pour préparer cette émission-là. Et un de nos moyens de nous documenter, ça a été de lire la documentation que vous nous avez fait parvenir, et entre autres la bande dessinée qui est en fait la rédaction d'un mémoire d'une étudiante en ostéopathie. Et moi, ce que j'ai trouvé assez fabuleux, justement, c'est dans l'histoire d'Andrew Taylor Steele, donc le fondateur de l'ostéopathie, c'est, on va dire, entre guillemets, par hasard, qu'il s'est rendu compte des différences qu'il pouvait y avoir au niveau fonctionnel, au niveau dans le corps. En fait, j'ai vu sur un dessin que c'était un enfant qui était atteint de dysenterie, et il trouvait que le ventre était froid alors que son dos était chaud, et là il s'est dit finalement c'est lié. Et en fait, ce qui est important aussi de montrer dans l'ostéopathie, et ce que vous faites vous, c'est de montrer avant tout que le corps est une globalité, Et ça, il me semble que c'est important de le préciser, que l'ostéopathe, justement, parce que dans ostéopathe, il y a os, et tout le monde pense, quand on dit ostéopathie, ça y est, on va voir un ostéopathe quand on a mal aux os, ou alors qu'on a un truc de cassé. Mais non, c'est, on peut avoir mal à la tête, on peut avoir des problèmes de digestion, on peut avoir toutes sortes de soucis. Et au contraire, l'ostéopathie va être une technique de soins qui va pouvoir soigner, parce que justement, c'est une prise en charge globale du corps.
Voilà, on ne prend pas en charge un patient qui vient, qui a mal à l'épaule, on ne va pas soigner son épaule. On va regarder vraiment tout son corps et analyser tout son corps pour voir la structure en globalité et pour pouvoir le soigner. Donc s'il y a une douleur à l'épaule, ça vient peut-être de la cheville ou des cervicales ou nulle part ailleurs.
Voilà, donc important de replacer ça dans le contexte. Et je crois que bon, vous allez nous le décrire au fur et à mesure, hein, je pense, de l'émission, de la conversation. Mais c'est vrai que l'exemple que citait Letty nous a frappé au sens où, justement, en l'occurrence, il s'agissait de problèmes où je crois qu'il a guéri une quinzaine de gamins qui avaient la dysenterie. Ouais. Et voilà, en fait, effectivement.
Le parcours a l'air hyper intéressant de ce personnage, quand même, parce qu'il a quand même évolué d'un milieu relativement aisé, si j'ai bien compris. Mm-hmm. Entre guillemets, ouais. Pour aller soutenir des gens qui n'étaient pas forcément dans sa vision des choses. Il a soutenu les anti-esclavagistes, enfin bon, ouais. Il a soutenu les esclaves, etc. Ouais, il était pro. Donc c'est assez étonnant de sa part quand même d'arriver à ce genre de choses.
Donc c'est un humaniste.
Je pense que oui, avant tout, il était aussi humaniste et ce qui lui a permis effectivement de connaître un peu plus les symptômes de l'âme humaine et puis des malheurs physiques des humains, et qui lui a permis de réfléchir aussi. Donc c'est mon avis, tout débute de là quand même, quelque part, quoi.
Oh, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Il passait de village en village. Il était en charrette, et puis il allait traiter les gens comme ça, de village en village, en demandant un poulet, une tarte, et puis il se contentait de ça. Lui, ce qui l'importait, c'était justement de substituer une médecine qui considérait comme étant trop basée sur les drogues. C'était à l'époque avec tout ce qui était mescaline, toutes les drogues.
C'est quand même assez dur.
Oui, quand même.
Ça calmait, c'est sûr, mais ouais. Bon.
Dans mescaline, il y a mescal. Non, ça te dit rien, toi.
Il y a Lynn, mais pour Lynn Renault, tu crois que Lynn Renault prend la mescaline?
Non.
Et donc pour lui, ça lui suffisait pas. Hein. Lui, pour lui, ça faisait que déplacer le problème. Il voulait vraiment trouver la cause du problème. Et c'est un des fondements principaux de l'ostéopathie, c'est aller chercher la cause du problème.
Et voilà. Est-ce qu'on peut dire ça? Que je faisais allusion au remède de cheval en blaguant, mais plus ou moins, dans l'édito. C'est qu'il ne s'intéressait pas aux symptômes, à traiter le symptôme, mais justement à traiter la cause, l'origine du problème, du trouble.
Ouais. Ouais.
Trouble, c'est un mot qui revient souvent. Ça veut dire que, quand vous expliquez ça, ça veut dire que c'est l'équivalent de dysfonctionnement. C'est que ça... C'est-à-dire que le symptôme apparaît comme un espèce de désordre dans une...
C'est ça, un désordre voilà. Dysfonctionnel. Ouais.
D'accord. Ok.
Alors, je pense que par rapport à l'histoire de l'ostéopathie pendant toute la durée de l'émission, je pense qu'on va y faire référence quand même de temps en temps, parce qu'il y a quand même des exemples qui sont suffisamment parlants pour illustrer. Après, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est vous aujourd'hui, c'est ce qui est actuel, et c'est savoir pourquoi vous êtes ostéopathe aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a amené à être ostéopathe. Donc ça, déjà, c'est, je pense, une première question à laquelle vous pouvez répondre, et puis après, quel a été votre cursus à tous les deux?
Mon père a commencé ses études d'ostéopathie l'année de ma naissance. Je pense que c'est pas pour rien. Et donc j'ai lutté pour pas faire comme mon père. Mon père est kinésithérapeute sur Le Havre et il a fait des séances des études d'ostéopathie depuis 27 ans. Et donc j'ai fait un bac littéraire option art plastique, donc rien à voir. Mais l'évidence était là, je voulais soigner des gens et je pense que je suis que c'est vraiment ma vocation de soigner avec les mains. Donc l'ostéopathie c'est un art, une philosophie, donc ça va tout à fait avec le bac littéraire option art plastique.
C'est vrai, c'est plastique. Quand on s'est rencontrés pour préparer l'émission, Leslie était là, et qui elle-même est, en tant que patiente, tout à fait convaincue des bienfaits de l'ostéopathie. Et elle a employé une expression que j'ai trouvée assez rigolote et révélatrice, que vous aviez des sortes de petits scanners dans chacun de vos doigts et que vous passiez voilà, comme ça le corps des gens à travers ces petits scanners de vos mains pour trouver les mots et les remèdes qui vont avec. Ça vous convient ça comme...
Donc ça, c'est de la palpation, hein, et on a eu 6 ans d'études pour apprendre à palper. Bon, les scanners ne sont pas arrivés comme ça du ciel. Il y a eu beaucoup de travail.
C'est bien que tu dis ça d'ailleurs, tiens, parce que justement, une des choses qui fait, je pense, que dans l'esprit cartésien français, qu'on ne remet pas forcément en cause, hein, c'est sûr, je l'ai dit, il faut être quand même prudent sur ce qui est la santé publique, mais c'est qu'il y a comme ça des rumeurs qui traînent sur le charlatanisme, sur les choses qui sont semi-magiques. Et en l'occurrence, ce que vous faites, ça ne l'est pas du tout. C'est tout à fait concret. Et en effet, si les études, on en reparlera aussi, sont peut-être pas encore sanctionnées par des diplômes, en tout cas d'État, il y a quand même de longues études. Peut-être que tu peux justement nous expliquer, puis Baptiste aussi, bien sûr, en quoi consistent ces études.
Parce que c'est 6 ans d'études à temps complet. Donc il y a une formation en anatomie, toujours de l'anatomie de la première à la sixième année. Donc l'anatomie, normalement, on la connaît sur les doigts de la main. De la physiologie, de la biologie, et aussi l'étude de la sémiologie, donc de toutes les pathologies du corps humain. Donc il y en a beaucoup. Tu peux...
Oui, oui. Donc même si on n'est pas, formé médicalement pour poser un diagnostic médical, on est quand même formé pour être alerté en cas d'un symptôme important qui n'est pas notre sort, pour pouvoir orienter. Donc un spécialiste, un médecin, qui saura s'occuper donc, du problème organique que nous, nous ne sommes pas capables, ou que du moins ça nécessite une intervention immédiate. Donc ça, on est formé pour ça. Donc pour ça, évidemment, on étudie la sémiologie médicale, et pour savoir tous ces signes, on est obligé de passer par là. Donc voilà, c'est sûr que si je voulais.
Je crois que ça va nous amener à un truc qu'on avait noté, que Letty m'a rappelé cet après-midi. Peut-être justement quel est, puisque vous l'abordez, l'entretien préalable avec une personne qui vient vous voir. Qui va faire que vous allez penser que vous pouvez le soigner par vous-même et en combien éventuellement de séances, ou si justement ça n'est pas forcément de votre ressort. Donc comment s'appelle cette belle
expression ? L'anamnèse, le premier entretien en fait que vous faites.
Le premier entretien qu'on voilà. Donc on lui pose la question pourquoi il vient, où se trouve la douleur, depuis quand, etc. On lui demande aussi les signes associés à cette douleur. S'il y a des maux de tête, s'il y a de la fièvre, s'il y a une perte de poids, si tout ça. On lui demande aussi tous ses antécédents médicaux. Donc les interventions chirurgicales qu'il a pu avoir, les maladies qu'il a pu avoir, les séjours à l'hôpital, etc. Et donc tout ça, ça nous intéresse beaucoup. Également les traumatismes physiques qu'il a pu avoir, donc les accidents de voiture. Et également les gros chocs, les gros chutes sur la tête, sur les fesses, à plat dos qu'il a pu avoir. Tout ça nous intéresse beaucoup. Et également les traumatismes psychiques, parce qu'on s'occupe de l'individu à part entière. Et donc s'il a eu des gros chocs affectifs, ça peut nous aider aussi pour comprendre mieux la personne.
Bien sûr. Mais alors du coup, ça veut dire que cet entretien, il est forcément très long. Les bons médecins généralistes, il y en a quand même. Hein. Ne croyez pas à mes médecins qui nous écoutaient qu'on fait de l'anti... Bon, docteur Roussel, par exemple.
Docteur Véry, docteur Mottet.
Et je pense que pour tous nos... Mister Hyde. Pour tous nos auditeurs qui ne sont pas forcément à vrai, je pense qu'il reste encore des bons médecins qu'on peut appeler parfois le médecin de famille, voilà, avec toutes ses capacités. Enfin bon, ils ne le font pas tous par manque de temps, pour différentes raisons qu'on ne va pas développer peut-être tout de suite, mais si vous voulez en parler plus tard, pourquoi pas. Mais en tout cas, donc... Ils ne prennent pas tous le temps, et ça, ce premier entretien, pour vous, du coup, ça va prendre un temps très long, et d'autant plus que peut-être que les gens, quand vous commencez à parler avec eux, tout ne leur vient pas à l'esprit tout de suite, quand même.
Non, si, ça peut arriver voilà. qu'ils, la séance suivante, ou même pendant la séance, il y a des éléments en plus qui ressurgissent, mais ça, c'est pas grave, on l'intègre.
Oui, non, mais je me doute, parce que si tu veux, très concrètement, je me disais, si j'arrive et qu'on me demande... quelle chute j'ai pu faire, quel traumatisme psychique que j'ai pu avoir, etc., etc. Je suis persuadée, et c'est assez logique d'ailleurs, vu ce qu'on se cache parfois dans la mémoire humaine, je vais pas forcément vous dire ça tout de suite comme ça, quoi. Je pense que je suis pas la seule.
Alors, ce qui est assez drôle pour l'avoir vécu du coup en tant que patiente avec Sophie, c'est que une petite chose complètement insignifiante, enfin qui à nous semble insignifiante, une manière de tomber. Se retrouver assis sur un parpaing, par exemple, finalement, on se rend compte que ce petit choc, qui était plutôt quelque chose de drôle sur le moment, devient pour le coup un traumatisme et a des conséquences. Donc ça, c'est comme quoi les toutes petites histoires peuvent avoir leur importance. Et puis moi, la remarque que je voulais faire aussi par rapport au, je dirais, au sens qui sont les vôtres en tant qu'ostéopathe, Juliette disait qu'il n'était pas question de dons particuliers. Moi, je trouve qu'il y a quand même une certaine qualité dans, je dirais, la prise en compte et la prise en main que vous avez en tant qu'ostéopathe, c'est-à-dire la manière dont vous sentez et dont vous palpez les gens. Et puis aussi un œil aguerri. Moi, je me rappelle par rapport à des radios où moi, je suis venue avec des radios où il n'y avait rien de probant. Et où toi, Sophie, tout de suite, tu m'as dit « Bah non, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, qui n'est pas normal. » Alors, ce qui ne voulait pas dire que c'était un gros traumatisme du tout, mais comme quoi l'œil aguerri a aussi son importance. Et ce qui va plus loin aussi dans le sens où je pense que en termes de prise en compte globale du patient, je trouve que l'ostéopathe est quelqu'un qui le fait plutôt bien. Puisqu'il va prendre le temps, justement. Mm-hmm. Nous, on a l'habitude de voir des thérapeutes qui vont prendre une radio, vont dire, bah, grosso modo, il n'y a pas de fracture, donc c'est pas grave. Donc vous pouvez rentrer chez vous, et puis tant pis si vous avez mal, vous prenez des médicaments et compagnie. Et là, l'ostéopathe, il regarde, il dit, bah non, là, il y a quelque chose qui ne marche pas bien au niveau mécanique. Mm-hmm. Et le fait de débloquer ce blocage, pour le coup, mécanique, va faire que tout le reste va aller mieux aussi. Voilà. Quoi.
Donc on est clinicien et on a aussi beaucoup appris à lire les clichés radiologiques, scanners, IRM, échographie. Et donc on est à même, thérapeute, à expliquer aux patients ce qu'on voit sur les radios, ce que le radiologue ou le médecin n'a souvent pas le temps de faire. Donc on sert aussi d'intervalle entre la médecine générale et le patient pour lui expliquer vraiment pourquoi il a mal et qu'est-ce qu'il y a sur les images qu'on peut effectuer sur son corps.
Et souvent cette partie-là aussi fait que le mal va prendre beaucoup moins d'importance parce que justement il y a des mots qui vont être mis dessus qui sont pas souvent mis justement dans un centre de radiologie ou parce que là, voilà, c'est une lecture rapide. Là, au contraire, c'est une lecture approfondie, mais qui fait que bah, finalement, il y a aussi le fait de dédramatiser un choc et de dire que bah, oui, effectivement, là, c'est pas normal, mais pour autant, c'est pas irréversible. Donc, c'est exactement. Prendre le temps pour en gagner aussi quelque part. Quoi.
Est-ce que ça veut dire qu'au cours de vos études, donc il y a tout cet aspect anatomie, tu l'as dit, physiologie, biologie, il y a un grand temps qui est accordé à des études au niveau psychologique ou...
Non,
pas spécialement.
Non, un grand temps si on en fait, mais encore une fois, on n'est pas psychologue. Et donc, en cas de pathologie psychologique, on enverra un psychothérapeute qui sera apte à poser un diagnostic et qui sera apte à soigner ce type de pathologie. En l'occurrence, on peut quand même aider cette personne. Nous, on considère le corps et l'esprit sont indissociables, hein, de toute façon. Donc, en délivrant les mots du corps, on peut délivrer les mots de l'esprit aussi, et vice-versa.
Peut-être qu'effectivement, voilà, ça peut faire prendre conscience, on va dire, que des choses somatiques ont peut-être une autre origine que ça. Et donc, même si vous ne pouvez pas le traiter forcément directement, faire prendre conscience, en tout cas, aux patients que, bon, bah voilà, ils pourraient s'orienter, pourquoi pas.
Exactement.
Voilà,
mais nous, on est des mécaniciens du corps en premier lieu.
Ouais, bien sûr.
Donc, on s'occupe de vraiment de la structure du corps du patient.
Non, c'était par rapport à votre cursus, justement. C'est dans quel cadre ça s'est déroulé, justement.
Dans des écoles privées, pour l'instant. Donc à 6 ans, ce que j'ai oublié de spécifier, c'était, j'ai parlé de l'anatomie, physiologie, biologie et sémiologie, mais nous avons une grande partie, et pas des moindres, de palpation.
Eh oui.
Et de tests et de techniques ostéopathiques. La pratique ostéopathique compte pour beaucoup dans nos études. Et ça, c'est vrai que nos mains, elles sont éduquées.
Alors, comment ça se passe?
Oui, justement.
On aimerait bien.
Justement, qui sont les professeurs et, combien y a-t-il de lieux d'enseignement en France?
Qui sont les cobayes?
Nombreux ou c'est...
Il y a une quinzaine d'écoles à temps plein en France, mais il y a une trentaine, voire une quarantaine d'écoles d'ostéopathie. On va y revenir peut-être après pour les formations d'ostéopathie.
Juste une question, qui dit études dans école privée égale études payantes.
Ouais. Exactement. Ouais. Eh ben oui, ça... donc pas accessible. Mais on attend la reconnaissance pour que ce soit des facultés.
Bien sûr, ce qu'on va développer ultérieurement dans l'émission. Oui, non. D'accord.
Petit morceau de musique,
crois, voilà.
Toujours choisi par nos invités. Le prochain morceau, on vous laisse le présenter.
Donc, il s'agit de Electric Gypsyland. We'll be right back.
Oui, nous sommes toujours avec Sophie Lécuyer et Baptiste Brunet pour parler de leur profession qui est, on l'a bien compris, en partie une vocation humaniste, c'est-à-dire l'ostéopathie. Et bon, juste avant ce morceau de musique, on parlait de la formation, donc on a bien compris que c'est une formation extrêmement complète, n'en déplaise aux malveillants. En revanche, donc, on a vu que c'était une formation pour l'instant encore payante. On peut peut-être quand même faire un petit détour par comment dire, les statuts officiels. C'est-à-dire, apparemment, en France, si j'ai bien compris, hein, vous prenez la parole dès que vous voulez, si ce n'est pas ça, grâce à Kouchner, depuis 2002, il y a du moins une loi qui reconnaît l'ostéopathie.
La profession d'ostéopathie.
La profession d'ostéopathie, oui, c'est important, bien sûr. Par contre, bon, pour rentrer dans les détails, le décret de loi n'est pas passé. Et il n'y a toujours pas donc un diplôme d'État. Donc vous battez pour que ça soit évidemment que ces choses-là soient améliorées. Qui veut en dire un petit peu plus? Il se regarde.
Donc oui, c'est l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 qui reconnaît la profession d'ostéopathie indépendante.
D'accord.
Donc pour cela, j'embraye déjà que le 4 mars prochain, il va y avoir une manifestation à Paris à la place de la République à 13h pour la profession d'ostéopathie. Puisqu'en fait, il y a des... Donc cette manifestation, en fait, elle permet de rassembler les différents syndicats d'ostéopathie, les professionnels, qu'ils soient médecins, kinésithérapeutes ou nous, que ostéopathes exclusifs. Voilà, donc parce qu'on n'est pas d'accord sur le projet de décret qui a été mis en place en décembre 2006. Qui à notre sens restreint un peu la profession de l'ostéopathie, disant que la formation préconisée par ces projets de décret est de 3 ans. Ça nous semble insuffisant.
C'est réducteur, quoi, bien sûr.
C'est-à-dire qu'en fait, ce nouveau décret d'application reviendrait à diminuer la formation d'ostéopathe de 6 ans à 3 ans. Et pour quelle raison ils veulent justement réduire cette formation? Pour des histoires de coûts, certainement.
Aïe.
Non, pas cela.
Je crois que c'est un peu un mystère, en fait. Il y a beaucoup d'ostéopathies différentes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pratiques d'ostéopathie. Il y a beaucoup de thérapeutes qui utilisent l'ostéopathie comme la vertébrothérapie. Ça veut dire une manipulation partie par là, tous les 6 du mois. Et donc là, on ne reconnaît pas l'ostéopathie. La profession que nous, on exerce intégralement, ça n'a vraiment rien à voir. Et en fait, je pense que les projets de décret ont voulu mettre tout le monde dans le même sac et ont voulu faire de l'ostéopathie un peu un milkshake de tout ça. Et nous, on veut pas.
Ah oui, vous avez bien raison. De toute façon, pour une grande spécialité quand même des pouvoirs publics, enfin surtout en période électorale, je pense, mais bon, en général, c'est d'essayer d'être d'accord avec tout le monde, ce qui est assez difficile. Ce qui m'amène à détailler ce que tu disais, puisque effectivement, il y a ceux qui, comme vous, font profession d'être ostéopathe, et certains médecins généralistes sont ostéopathes aussi, et également des kinés. Et voilà, on voulait justement revenir pour que nos auditeurs dans le bar et nos audinotes comprennent bien aussi quelle est la différence justement entre un kinésithérapeute et un ostéopathe, sachant qu'on peut être les deux. Mais ça, nous-mêmes, vous nous l'avez déjà expliqué avant l'émission, mais
c'est comme si on ne savait pas.
Voilà, c'est comme si on ne savait pas. Ouais. Ce serait bien que vous nous le réexpliquiez pour tout le monde.
Ouais, donc alors, je reviens juste sur l'ostéopathie à plusieurs vitesses. Parce que ce qui se passe, c'est que par rapport à l'émoi de l'ostéopathie, des écoles en parallèle se sont formées, un petit peu à droite à gauche, qui forment des ostéopathes en 2-3 ans, en quelques séminaires. Alors ce sont des écoles qui sont pour ceux qui ont déjà une profession médicale, kinésithérapeutes, médecins, rhumatologues, et qui, avec quelques heures de pratique ostéopathique, se mettent ostéopathes, médecins ostéopathes, et qui pratiquent à outrance les manipulations, ou qui est en fin de compte une toute petite partie de l'ostéopathie. Donc en 3 ans, comment veut-on acquérir la palpation nécessaire pour aborder tout le corps dans sa globalité?
Et surtout garantir la sécurité du patient.
Voilà.
Alors moi, je vais encore plus loin que vous, je peux me permettre, puisque je ne suis pas ostéopathe et pour le coup, je suis juste patiente. Moi, je me dis... pas manipuler, justement. Je me dis, il y a deux choses. Il y a un certain nombre de praticiens, médecins, kinésithérapeutes, autres, on va dire, qui se disent, tiens, finalement, si je me mets une autre petite branche ostéopathe, j'attirerai peut-être une autre clientèle, et ceux que j'ai déjà en tant que patient, plutôt qu'ils aillent voir un autre thérapeute, bah ils restent chez moi et je leur fais de l'ostéopathie. Ouais, bah en plus, je leur fais au prix de la sécurité sociale et ils sont remboursés. Tout bénéf pour tout le monde, à la fois pour le patient et à la fois pour le médecin. Ça fait rire. Non mais ça fait rire tout le monde, voilà.
Mais non, mais et pourtant, au contraire, c'est vrai. Non, c'est bien résumé. Et d'ailleurs, ça ne fait pas rire tout le monde. J'en vois qui opine.
Et pourtant, donc, c'est vrai. Et puis il y a donc ça, c'est vraiment le côté le versant, je dirais, thérapeute. Et puis il y a le côté aussi patient, qui est de moins en moins riche de toute façon, qui a quand même envie de prendre soin de lui. Mm-hmm. Et se dit, bah tiens, lui, ce qui n'est là, j'ai entendu dire qu'il faisait ostéopathie. Tiens, je vais aller le voir. Et puis, entre deux, je vais lui demander qu'il me fasse une séance d'ostéopathie et comme ça, je vais être remboursée. Sauf que je me dis aussi, encore une fois, qu'en voulant faire un certain nombre d'économies au niveau financier, parce qu'on va se dire qu'on va être remboursé, je ne sais pas si la prise en charge sera aussi bonne que d'aller voir un bon ostéopathe. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le dis.
C'est pas de la pub pour vous, les amis.
Bah oui, c'est évident. C'est bien. Je peux en faire que de la pub.
Je déconne, mais il faut quand même qu'il agrandisse sa plaque.
Mais des fois, ils l'agrandissent pas, tu sais. Et en plus, ils te disent ça. Mais justement, c'est important de le préciser aussi, c'est qu'il y a certains médecins ou thérapeutes qui vous disent qu'ils sont ostéopathes, mais comme si vous disiez qu'ils étaient rebouteux pour le coup et qu'ils ne l'annoncent pas. Et moi, je trouve, encore une fois, que c'est ne pas valoriser cette profession, d'une part, et ne pas lui donner la crédibilité et puis la garantie de réussite qu'il peut y avoir. Quand on dit qu'on est ostéopathe, comme on dirait qu'on est, je vais pas dire rebouteux, parce que moi, je suis désolée, il y a des choses pour lesquelles je crois au niveau rebouteux. Donc je vais pas
on ne dit pas « je crois », on dit « j'ai vérifié qu'il y a des pratiques qui sont probantes », d'accord
Comment on dit Non, je le dirai pas.
Pour en revenir à la question de Juliette par rapport à la distinction entre ostéopathe, kinésithérapeute, je vais poser une question de pur profane, mais je ne dois pas être le seul. Quelle est la distinction entre un kinésithérapeute et un ostéopathe?
Bien. Alors déjà, le kinésithérapeute a un diplôme d'État. Il est reconnu par l'État. L'ostéopathie, pas encore. Maintenant, le kinésithérapeute va appliquer, en quelque sorte, les ordres du médecin. Le patient qui a mal à quelque part va voir son médecin généraliste. Le médecin généraliste, il fait, bon, il vous faut tant de séances pour le genou, par exemple. le kinésithérapeute lit l'ordonnance, il regarde, et il fait, bon ben voilà, on va vous faire tant de séances sur le genou. Alors qu'ils sont de renforcement musculaire, des étirements, du massage, et point barre. L'ostéopathe, lui, déjà, il n'est pas dépendant du médecin, puisque des patients peuvent nous voir en première intention. Et lui ne va pas s'occuper essentiellement du genou, mais va aller voir tout le corps. C'est le principe de globalité du corps, cher à l'ostéopathie, où il va aller s'intéresser vraiment à tout le corps. Il va aller voir la cheville, il va aller voir le bassin, et puis il va remonter au niveau des lombaires, au niveau du dos. Et il va trouver un espèce de lien. Il va faire c'est le détective du corps. Hein. On cherche tous les petits indices dans lequel il y a une restriction de mobilité, un manque de mouvement pour pouvoir corriger le problème. Donc en fin de compte, le kinésithérapeute va s'attacher aux symptômes selon l'ordre du médecin et l'ostéopathe va aller voir plus loin. Il va aller voir à l'origine du problème qui peut très bien se trouver au niveau du genou. Hein. C'est pas ça qu'on dit, c'est qu'on va voir juste un peu plus loin parce que le corps il a de multiples possibilités d'adaptation pour pouvoir compenser tout ce qui fait mal pour les lois de confort, pour les lois de non-douleur et donc nous on va s'intéresser à tout ça. Voilà, c'est ça la différence entre kinésithérapie.
Ne serait-ce qu'au niveau du squelette, enfin j'ai entendu dire plusieurs fois que c'est un peu mon obsession en ce moment, mais qu'une ou deux dents en moins pouvaient suffire à changer des choses au niveau de la colonne vertébrale. Et donc après, voilà, des choses qu'on va retrouver sur la hanche, sur justement le genou, puisqu'on on parlait de ce cas de figure.
Ah oui, c'est pas étonnant. Tout est lié à tout dans le corps. Soit on va tout bien, soit on va tout mal. C'est pas mon genou va mal, mes cervicales, mes dents vont mal. Non, c'est quand il y a quelque chose qui va mal, c'est tout qui va mal, puisque tout est relié. Et ça, que ce soit physiologique, anatomique, c'est prouvable. Ça découle du bon sens.
Est-ce qu'on peut donner un exemple à la fois pour les auditeurs dans le bar et aussi sur Internet qui soit complètement parlant où on se dit bah tiens je vais chez l'ostéopathe parce que j'ai mal là et total on se rend compte que effectivement la manifestation de la douleur elle se situe là mais la cause elle est complètement autre. Est-ce qu'il y a tu voulais bien l'un ou l'autre nous donner un exemple super parlant?
Ouais.
Des lombalgies par exemple, un patient qui vient, il a mal au dos. On se rend compte qu'il a mal au dos depuis 2 ans et demi. Et dans notre anamnèse, donc la première partie où on interroge le patient, on se rend compte qu'il y a eu une entorse à la cheville droite il y a 3 ans. Et en fait, quand on va tester tout le corps, on s'aperçoit que tout est libre, que les lombaires, il n'y a aucune dysfonction mécanique, mais qu'à la cheville, il y a un problème mécanique qui est resté, qui n'a pas été soigné. On libère la cheville et il n'y a plus de problème au dos. Voilà.
Tu nous avais cité.
Et ça, il y a vraiment de 10 000 exemples. Par exemple, on peut avoir 10 patients dans la journée qui viennent pour le même motif de consultation, pour une douleur en bas du dos. Dans notre consultation, on peut soigner sur ces 10 patients-là 10 choses complètement différentes. Donc 10 causes complètement différentes. A contrario, on peut avoir 10 personnes qui présentent 10 motifs de consultation qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et on peut se retrouver à soigner exactement la même chose. Donc voilà, ça c'est vraiment étonnant, oui. La même cause.
Pour rester dans le concret, quand vous... Bon, donc il y a l'anamnèse.
Oui.
Ensuite, évidemment, selon les cas, il y aura une, deux, trois, plus séances si ça reste complètement de
votre domaine.
Donc il
n'y a pas que l'anamnèse dans la consultation. Hein. Ça prend pas beaucoup de temps normalement. Et ensuite, on passe beaucoup de temps pour tester toutes les articulations du corps humain, faire notre enquête policière
dans les doigts
et faire le soin de la personne.
Et donc, parce qu'une des choses les plus connues, et je ne suis pas sûre, je faisais allusion au film très rigolo, mais bon, ça reste ça, hein, Rire et Châtiment, évidemment, c'est le plus célèbre, c'est le cracking, quoi. Ouais. Et voilà. Évidemment, il n'y a pas que ça, même si je ne doute pas qu'une bonne petite remise de temps en temps, comme il faut. Ça, c'est sujet à plein de sketchs, d'ailleurs. Mais bon, il y a aussi des choses plus en douceur que peut-être vous pouvez nous expliquer aussi.
Ouais, alors.
En fait, c'est sur les différentes techniques, ça,
ouais.
Plus précisément.
Donc ça, ce qu'on appelle le cracking, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon ostéopathique, du structurel direct. C'est l'histoire de la porte qui ferme mal. Pour la fermer, on va forcer dans le sens de la fermeture. Maintenant, il y a des techniques qui sont dites fonctionnelles, où on va aller plutôt dans le sens... ou l'articulation, ou le tissu. Je reprends Sophie sur le test des articulations. On ne teste pas que les articulations, on teste aussi les tissus. Donc, on va aller dans le sens de la dysfonction, c'est-à-dire le sens du mouvement ou l'articulation. On va prendre l'exemple de l'articulation, où elle veut bien aller. Donc, si la porte ferme mal, c'est peut-être que le gond est faussé, peut-être que la poignée est trop abaissée, qu'on ne peut pas... Donc, pour cela, on va plutôt ouvrir la porte un peu plus grande. On va déverrouiller un petit peu le gond. On va sortir un petit peu le gond pour revenir en douceur jusqu'à la position normale de mobilité.
On sourit parce qu'en fait, l'exemple de la... fermeture éclair a plu à tout le monde, voilà. Particulièrement à Pascal.
Voilà. Mais à moi aussi, on en avait parlé. Et d'ailleurs, du coup, puisqu'on parle de cette fermeture éclair, il serait temps qu'on cite, tu l'évoquais tout à l'heure, la bande dessinée donc, qui était à mémoire. Ouais. Qui en est l'auteur?
Voilà, donc c'est paru, voilà. Le titre, c'est L'ostéopathie pour tous. C'est à l'édition Sully. Et l'auteur, c'est Célia Le Dresset.
Voilà. Donc effectivement, c'est important de le dire parce que franchement, nous, ça nous a beaucoup aidé à comprendre notre sujet de ce soir. Elle est très très bien fichue, cette bande dessinée, en effet, qui est donc à mémoire, ce qui est quand même en plus aussi une bonne idée d'avoir présenté un soutenu à mémoire sous cette forme-là. Et donc, pour en venir à la fermeture éclair, ça rejoint les gonds, les portes de Baptiste. Il y a la manière brutale, tout le monde a déjà eu une fermeture éclair de jean coincée. Bon, soit on fait un peu comme moi, des fois ça marche, mais bon, souvent ça pète. Et soit on fait plus, justement, on redescendra un petit peu avant de remonter prudemment. On est d'accord? Ouais.
Ouais, à ça on peut ajouter aussi les techniques qu'on appelle d'énergie musculaire. Mm-hmm. On vient demander au patient activement de pousser dans une direction. Et puis, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par une inhibition réciproque, on appelle ça, des muscles antagonistes, on va pouvoir obtenir son inhibition et pouvoir gagner dans la mobilité articulaire. Et donc tout ça, l'ostéopathie, c'est tout ça. Ce n'est pas le cracking, ce n'est pas le fonctionnel, ce n'est pas l'énergie musculaire, c'est tout l'ensemble. Et donc le but et le principe, c'est justement de jouer avec tous ces outils pour pouvoir, selon le patient, toujours par rapport au patient et pas par rapport au thérapeute, adapter ses techniques. Donc,
vous utilisez, ou alors, je pense que beaucoup d'ostéopathes fonctionnent comme ça, mais en l'occurrence, Sophie, durant les séances qui durent quand même une bonne heure, j'ai l'impression, moi, d'avoir eu le droit à tout, en fait, à la palpation, à la sphère crânienne, au mouvement,
la sphère viscérale,
la remise en place des oreilles.
Ouais, non, mais
j'essaye d'être la plus complète.
Je suis un vrai terrain, je vous assure.
C'est-à-dire que tu ressembles à un Picasso quand tu arrives en consultation.
Eh bien, sans déconner. Sans
et rien. Un bras qu'elle
a sorti. Vraiment, l'impression que ça donne quand vous allez chez un ostéopathe, que vous en ressortez, c'est d'arriver là en ayant l'impression d'être en désordre à l'intérieur et que voilà, il y a des trucs qui ne marchent pas bien. Et vous ressortez, vous avez l'impression qu'on a remis les... pas seulement les pendules, mais surtout les pièces du puzzle vraiment aux bons endroits. Et puis que là, ça marche bien en fait. Ça libère vraiment. C'est vraiment l'impression moi, que ça m'a donné en sortant de
certaines... Et c'est le but. C'est bien.
C'est le but, donc c'est pas mal quand même.
Je suppose que ça change selon les patients et selon les pathologies. Et est-ce que pour couper cure cours
à des
rumeurs. Et je t'ai repris sur le mot croyance, évidemment. Toi, tu sais pourquoi. Je pense que non seulement tout le monde autour de la table, mais en plus nos audinotes, s'ils ne le savent pas depuis le temps. Croyance, non, bon, d'accord. Mais en revanche, justement, des gens qui ne sont pas persuadés que une séance chez l'ostéopathe, ou en tout cas aller voir un ostéopathe, c'est utile, c'est peut-être parce que certains, dès la première séance, sont complètement libérés, se sentent mieux, ils se disent « c'est à moitié magique, c'est fait, je n'y reviens plus ». Et d'autres, par contre, disent « j'ai encore plus mal après, quelle horreur, ça ne marche pas ce truc-là ». Peut-être que vous pourriez justement nous expliquer en quoi,
parfois, il y a des...
selon les gens, selon les pathologies, ça change, quoi.
La réaction la plus commune après une séance d'ostéopathie, c'est la fatigue, qui dure 2-3 jours. En fait, c'est le temps que le corps se réharmonise de lui-même, qui retrouve ses repères. En fait, pendant 2-3 jours, souvent, mais c'est pas à 100% non plus, les patients ne savent pas sur quel pied danser. Et après, ils retrouvent leur marque. Voilà, donc c'est la réaction la plus commune, c'est la fatigue après la séance. Il peut y avoir des courbatures aussi. Et parfois encore plus de douleur qu'avant qu'il soit venu.
Oui, par exemple,
mais ça ne dure pas. Mmh. Voilà. Et après, il retrouve une liberté et une souplesse beaucoup plus qu'avant.
Bah, oui, évidemment. Voilà. Et cela dit, donc forcément, selon les cas, ça peut être une séance ou combien d'ailleurs ça peut...
Ou plusieurs.
Oui, bah, ça peut être généralement, on va dire, ça dépend aussi du praticien. Plus on est expérimenté, plus on ira à la cause du problème et plus vite le problème sera réglé. Mais ça varie entre 2, 3 séances, 4 séances. Puis après, on préconise souvent aux patients de venir nous voir 2 à 3 fois par an. 2 à 3 fois par an, ne serait-ce que pour vérifier, faire un check-up du corps. Pour vérifier justement toutes ces mobilités qui ne font pas forcément mal, mais qui peut par la suite être la goutte qui fait déborder le vase.
Justement, par rapport à ça, moi je le disais dans l'intro, je disais que c'était à la fois une technique curative, donc qui soigne, mais aussi préventive, dans le sens où justement pour éviter de prendre de mauvaises postures ou de ne pas attendre que justement il y ait... un symptôme qui devienne de plus en plus important et qui génère une autre douleur, bah vaut mieux la prendre à temps et puis régler le problème. C'est aussi pour ça que c'est préventif, je pense. Je prends souvent l'exemple de la cocotte minute. Je dis souvent aux patients de venir avant que la cocotte minute n'explose, donc avant qu'il y ait une douleur imprenable et incurable. Donc bien sûr, quand la cocotte déborde, on peut en ostéopathie régler le problème, mais ça va prendre peut-être plus de séances et plus de temps. Quand la cocotte siffle, ça va prendre beaucoup moins de temps. Voilà, beaucoup moins de temps, et on va pouvoir travailler sur la prévention. Donc en régularisant, en réharmonisant et en redonnant de la mobilité au tissu. Donc on va permettre au corps de pouvoir s'équilibrer lui-même, en fait, sans qu'il y ait de blocage, de fixation dans le corps qui puisse à terme amener la maladie ou la douleur invalidante.
En fait, là, tu viens de lancer plein de pistes au niveau des questions et puis de ce qu'on va pouvoir développer. Mais comme ça va être vraiment très, très vaste, je pense qu'on va passer un nouveau morceau de musique et qu'on va pouvoir en parler après.
On va d'autant plus passer un morceau de musique qu'on va écouter... je vous dis rien, tiens. Écouter un morceau et puis c'est Christian qui, avant sa chronique, nous présentera ce morceau. Non, tu veux le présenter maintenant ?
En fait, je dois parler un petit peu avant parce que... Je voulais faire quelque chose de léger cette fois pour la rubrique Quai des amphis. Bien, Pascal. Je vais simplement dire qu'il y a 10 000 sujets à envisager quand on fait la chronique Quai des amphis, autant qu'il y a d'étudiants au Havre, finalement. C'est-à-dire que le choix est vaste et la hiérarchie pas toujours évidente. Et quand on a 20 ans de métier, 100 ans, on a en plus du marbre sous le coude du marronnier sur le bout de la langue, des appels téléphoniques en cascade et un agenda millefeuille boudiné de cartes de visite qui ont toutes l'air de nous dire « Est-ce que tu penses à nous ?» On a tous cet agenda-là. Hein. Et puis, il y a la belle rencontre. Elle arrive à l'improviste, celle qui nous fascine et qui prend le tour des autres sans crier gare. C'est pas de la même. Sans crier gare, quai numéro 3, quai des Amphis, là nous attend Ao Li, étudiante diplômée d'une maîtrise de musicologie chinoise. Elle apprend le français à l'école des Roches Blanches à Verneuil-sur-Avre. Elle est au Havre avec une autre amie, Zhao Ye, étudiante dans une école parisienne d'esthéticienne. Elle est Miss Chine en France. Xinling Ao, cela veut dire bonne année. Oui, je voulais mettre la rubrique sur le Nouvel An chinois. Elles sont invitées par M. Wang Zhongxin, je vais parler chinois, je ne sais pas si j'aurai l'accent, qui est directeur d'Apex Leading, un organisme de formation sino-français au Havre. Alors l'une chante et l'autre danse. Elles viennent fêter le Nouvel An chinois. Nous les retrouvons sur la scène du Shanghai Palace où elles présentent, à tour de rôle, l'art délicat de la chanson traditionnelle et la grâce d'une chorégraphie bien codifiée. Ao compte bien rester en France 4 à 5 années pour découvrir les œuvres musicales françaises et maîtriser notre langue pour interpréter ce répertoire sans accent. Elle n'a que 24 ans et se donne le temps de revenir en Chine pour enseigner la musique. C'est une chanteuse née. Elle a dans la tête depuis l'enfance les berceuses que lui fredonnait sa maman. Vous connaissez, me dit-elle, les deux tigres. Est-ce que vous connaissez les deux tigres? Eh bien, ça fait... Na, 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 na. Frère Jacques, Xiaoy sourit. Elle chante tout le temps, dit-elle. Xiaoy, elle, après les cours d'esthéticienne, veut se spécialiser dans le maquillage pour travailler sur les plateaux de cinéma ou de télévision. Et puis, elle se verrait bien journaliste à la télé. Tu sais, Juliette, Xiaoy, comme toi, anime une web radio à Paris. La BBS Rêve France, c'est en langue chinoise quand même. Mais je vous sens impatient, j'entends déjà. Bah, il s'est pas embêté, il est allé à la rencontre de deux jolies chinoises et puis il a fait sa rubrique comme ça.
Bon, on a l'habitude avec toi maintenant, vite sur le gaz. Hein.
Bah, attendez, j'y arrive. Il y a 4 ans, en 2003, c'était l'année de la chèvre. Cette année, c'est l'année du...
Cochon.
Cochon. J'avais rencontré la première vague d'étudiants chinois installés au Havre. Ils étaient 103 exactement. Inscrits pour la moitié en formation continue afin d'apprendre le français, ça avait étonné l'université de voir plus d'une centaine d'étudiants arriver au Havre. Et l'autre moitié, déjà francophones, se sont inscrits en sciences et techniques et bien sûr aux affaires internationales afin d'achever leur cursus en France. Rappelons qu'en 1998, l'université du Havre a passé un accord bilatéral avec l'université de Dalian, c'est au sud de Shanghai. D'autres liens existent avec l'université de Ziyang, j'espère que je le dis bien. Tout ça doit favoriser et faciliter les échanges sino-français et franco-chinois. N'oublions pas que, dans l'autre sens, des étudiants havrais partent aussi vers la Chine et l'Asie. En général, avec pour objectif un master de commerce avec l'Asie, un DUT de langue et civilisation orientale, et même à présent, un diplôme d'ingénieur logisticien. Fait significatif, le nombre d'étudiants à la rentrée qui apprennent le chinois à l'Université du Havre a plus que doublé. Cette année, l'Université du Havre compte 224 étudiants en provenance de Chine. Ils représentent le groupe étranger le plus nombreux du campus. En master, cela représente 30% des effectifs. Le contingent 2006-2007 est réparti de la façon suivante. Pardon, je vous donne quand même les chiffres. 84 en formation continue, donc on arrive encore pour découvrir la langue française. Je crois que Port de Mille, les bateaux chinois qui fréquentent le port doivent y être pour quelque chose. 88 aux affaires internationales, 31 en sciences et techniques, 11 en lettres et sciences humaines, 8 à l'UET et 2 à l'ISEL. Revenons à Ao Exaioi. Leur rencontre à l'Apex Leading nous rappelle qu'en dehors de l'université, d'autres jeunes chinois fréquentent d'autres établissements à Vrai, à commencer par l'école de management de Normandie. Pour finir, une méditation. En quelle année sommes-nous dans le calendrier chinois ?
Moi, j'ai déjà répondu. Hein. Le cochon ?
Non, j'ai pas demandé.
Non, quelle année ?
Quelle année sommes-nous ? Ah oui, quand est né le calendrier chinois ? Ah oui, c'est...
Nous sommes en 4704. Ah, quand la Chine s'éveille en 2697 ans de plus que nous, est-ce nous qui reculons ou est-ce elle qui avance ? Vous savez, c'est l'histoire du wagon qui reste en gare alors qu'à côté, un autre démarre. Les voyageurs du premier ont l'impression de partir et ceux du second ne savent pas qu'ils sont déjà en mouvement. L'illusion ne dure qu'un temps. Sur le quai des Amphis, on se prend à rêver à des trains qui partiraient dans le même sens.
Yeah. Ouais, bravo.
Bravo Christian. Bravo Christian. Et écoute, merci pour ce, une fois de plus, pour ce troisième quai des Amphis. On est ravis. Et, ça va continuer, bien entendu, sur Radio Apple Pie. Du coup, on avait une question qui nous a été... voilà, les auditeurs dans le café nous font passer des petits mots de temps en temps. Ça peut-être faire un lien, puisque Anne nous demandait de vous poser la question à vous, bien sûr, Baptiste et Sophie. Y a-t-il un rapport, puisque vous traitez la globalité du corps et bon, faites des manipulations, vous cherchez les dysfonctionnements ici et là, y a-t-il un rapport entre votre profession et celle d'acupuncteur ? On nous demande...
Alors en fait, moi, je me demandais si le terme exact auquel pensait Anne-Lizzie, et elle va peut-être me confirmer, est-ce que c'est pas plutôt digito
Poncture.
Alors, poncture, parce que acupuncture, c'est voilà,
les aiguilles.
Avec les aiguilles, mais digito, est-ce que c'était plutôt ça, avec les doigts ? Parce que si c'est le cas, je pense qu'il vaut mieux utiliser le bon terme. Parce que acupuncture, c'est avec les aiguilles. Digitoponcture, c'est avec les doigts. Et comme on parlait, comme c'était au moment où on parlait de palpation, je pense que c'était plutôt ça.
Donc l'ostéopathie est occidentale. Ça a été né aux États-Unis. Et donc la médecine chinoise orientale, pure et dure. La médecine chinoise s'appuie sur le concept des méridiens. Voilà. Qui est une médecine à part entière, et donc ça n'a rien à voir, sauf la prise en charge globale du patient.
Voilà, non, mais je crois qu'il y avait quand même ce rapport, effectivement, on peut dire ça. Après, ce qui est certain, c'est que Pierre, notre webmaster, pas plus tard que cet après-midi, n'est pas encore là pour la poser au micro, cette question, mais disait, c'est un petit peu, enfin, c'est pas tout à fait une question, c'est en fait, dans les cursus, enfin, dans les études médicales traditionnelles en France, il n'y a quasiment pas d'études historiques sur ce que c'est la médecine, et d'autant moins sur les médecines traditionnelles non occidentales, on va dire, enfin, un petit peu vite dit. Est-ce que vous, dans vos formations d'ostéopathe, justement, vous avez quand même des réflexions au moins sur justement d'autres formes de médecine
Oui, vite fait, on a une approche pour savoir un petit peu... comment dire, l'explication d'autres médecines pour justement si un patient qui est venu à consulter un autre thérapeute pour un petit peu savoir de quoi il en est.
Ouais,
maintenant on n'a pas plus on est c'est pas plus approfondi hein. Moi je pars du principe de toute façon que tout ce qu'on va pouvoir mélanger en médecine, tout ce qu'on va pouvoir apporter, c'est toujours un petit bout de la médecine que l'on pratique qui part. On peut pas tout faire bien. Enfin, moi je pense
c'est voilà, l'ostéopathie, on a été formé par nos 6 ans d'études à temps complet à travailler avec d'autres professionnels, et ça je pense que c'est vraiment important à spécifier. c'est qu'on ne va pas soigner une pathologie, mais on peut aider le thérapeute, on peut aider la médecine allopathique, on peut aider aussi le patient qui a suivi une intervention chirurgicale, on peut l'aider aussi à défibroser par exemple la cicatrice ou à l'aider dans son fonctionnement, etc. Donc c'est vraiment une discipline interdisciplinaire. On est à même d'aider les autres thérapeutes pour le patient, toujours.
Justement, par rapport à ce que tu dis tout de suite et ce que tu disais aussi avant la chronique de Christian, tu as quand même évoqué quelque chose sans le nommer, c'est le principe de l'auto-guérison et le fait que le patient est aussi acteur dans cette thérapie-là, puisqu'on va lui demander quand même de se bouger. D'une certaine manière, et aussi le principe d'auto-guérison dans le sens de lui dire que c'est en lui qu'il a les clés pour pouvoir guérir et soigner un mal, et pour le coup justement il est acteur dans sa guérison. Voilà, ça fait rire tout le monde. Voilà, à chaque fois que je parle, ça.
Mais non, il fait de l'auto-dérision en fait.
C'est bien.
Ce qu'on cherche, c'est à responsabiliser le patient vis-à-vis des troubles. Si on remarque, comme on va faire l'anamnèse sur tout l'environnement du patient, si le patient boit, on va lui conseiller de ne plus boire, on va lui conseiller de faire du sport, on va lui conseiller d'adopter une hygiène de vie correcte et acceptable pour lui. Donc,
il n'est pas patient, non. Du coup, il renonce à ouvrir la bouteille.
Voilà,
excuse-moi,
il ne veut
Sophie.
Plus ouvrir la bouteille.
Tu n'es pas encore patient. Bon, alors.
Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer, il ne faut pas faire tout ça.
C'est la modération.
Exactement. Voilà. On peut tout faire, on peut tout faire du moment que ce n'est pas dans l'excès. L'excès crée le poison.
C'est aussi en ça que je trouve que l'ostéopathie est une bonne thérapie, dans le sens où, d'une part, elle demande aux patients de se responsabiliser. Elle dit aux patients que les ressources pour se soigner, elles sont en lui. Et du coup, elle dit qu'elle a pas besoin, que le patient n'a pas besoin d'autre chose que de lui-même et d'un petit coup de pouce, si je puis me dire, avec vous, pour l'aider. Mais justement, il n'y a pas de médicament. Et moi, je me dis, par rapport à une forme de reconnaissance aussi, enfin, il n'y a pas de médicament en ostéopathie, vous n'allez pas prescrire de médicaments.
Mais par contre, le patient, parfois, a besoin de médicaments pour aller mieux. Ça, bah, on n'est pas contre les médicaments, heureusement qu'ils sont là.
Non, pas du tout. Mais chacun aussi son domaine de soins, je dirais, et sa pratique de soins. Et après, ce que je me dis, en termes de... Après, c'est un débat, hein, donc on pourra l'entamer ou pas, si on veut. Je me dis, en termes de reconnaissance par rapport à l'ostéopathie, comme toutes les autres formes de médecine parallèle, est-ce qu'au niveau, je dirais, des différents ministères, il n'y a pas non plus une volonté de ne pas en faire un diplôme d'État et de le reconnaître et de le rembourser? Dans le sens où si on va mieux et on se soigne mieux avec ces médecines parallèles et entre autres l'ostéopathie, on n'aura plus besoin d'une autre forme de médecine, d'une autre forme de soins par le médicament. Et on voit par exemple le truc à ne pas dire du tout à la radio, on voit par exemple l'histoire de l'homéopathie qui est en train d'être déremboursée, qui était remboursée et qui est en train d'être déremboursée. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de guérison alors que c'est pas vrai, il y a des gens qui se soignent avec l'homéopathie et qui guérissent. Après, on met dans le principe de guérison ce qu'on veut, si on y croit ou si on n'y croit pas, et là je le rajoute encore, enfin, je vais me faire taper dessus par ma collègue encore, mais moi je me dis vraiment par rapport à ces médecines parallèles et entre autres l'ostéopathie, est-ce que c'est débattu justement ces questions par rapport aux différents syndicats de dire faut-il reconnaître l'ostéopathie par un diplôme d'État et permettre que ce soit remboursé au risque pour les autres praticiens que certains patients laissent tomber la médecine un peu plus traditionnelle et la médecine allopathique.
Donc il y a certainement une pression de la part des laboratoires pharmaceutiques évidemment. Notre concept, c'est de travailler avec tous les personnels de la santé et de tous les thérapeutes. Et bien souvent, un problème de dos, ce qu'on rencontre le plus souvent en ostéopathie, nos patients viennent pour des problèmes de dos, cervicalgie, dorsalgie, lombalgie. Donc la formule de l'allopathie, c'est antalgique, myorelaxant et anti-inflammatoire. Nous, on a des solutions manuelles qui marchent très souvent. Si on passait d'abord par l'ostéopathie avant les médicaments, je pense que ce serait effectivement mieux pour le corps et pour les patients.
Je crois que ça rejoint ce que tu disais par rapport à la cocotte minute, où en effet, il vaut mieux arriver avant l'explosion générale. En revanche, il faut quand même rappeler, parce qu'on parle d'une société, dans laquelle on vit, et pas d'un monde utopique. Je pense qu'on est nombreux à le déplorer, mais c'est ainsi. Ce qui fait que, entre des choses lourdes dans leur vie que peuvent avoir vécu les gens au niveau psychique ou des tas de choses au niveau inconscient qui peuvent être très marquants, etc. Un cancer se développe ou un certain nombre de choses qui peuvent exister qui sont des pathologies lourdes. Je pense que soyons quand même prudents, chers amis, autour de ce micro. Certaines fois, d'une part les médicaments, d'autre part des psychothérapies peuvent être des alliés aussi, quoi.
Alors, sans parler des médecines dites parallèles, est-ce qu'il vous arrive de suggérer ou d'orienter certains de vos patients vers des sports ou des activités physiques telles que, je pense notamment au tai chi, qui repose énormément sur la circulation harmonieuse de l'énergie dans le corps, la redécouverte de son propre corps et la localisation des blocages et contractions qu'il va falloir... c'est-à-dire surmonter, mais le terme serait probablement plus assouplir par la redécouverte de soi-même, en fait.
Exactement. Donc le tai chi, le qigong et le yoga, effectivement. Ces pratiques corporelles qui font s'intérioriser, le patient s'intériorise et comprend mieux son corps et le contrôle peut-être plus son mental. Et en fait, ce qu'on cherche, c'est que le patient soit à l'écoute de lui-même, surtout.
Oui, se redécouvre. J'ai un petit peu pratiqué le tai chi. Une des choses qui m'avait marqué, c'est que l'une des leçons toutes bêtes, une fois, c'était est-ce que vous faites travailler vos omoplates ? Et tous les élèves de regarder le professeur, oui, sûrement. Et elle est où l'omoplate ? Voilà.
Je travaille sur tous les omoplates.
Situez-moi ça. Ce qui est effectivement assez perturbant, finalement, de s'apercevoir qu'on a quand même une méconnaissance assez grande de sa propre anatomie.
C'est justement le but de ces disciplines, justement à mieux se connaître. Alors pourquoi pas au niveau anatomique, si on peut mieux se connaître anatomiquement, c'est mieux, mais c'est surtout sur l'état d'être qui est le plus important. On va conseiller ça à nos patients si on sent qu'il peut accepter ça ou que si c'est vers ça qu'il tend. Maintenant, on voit bien dans notre pratique, toutes ces personnes qui pratiquent ces disciplines, elles ont une réponse tissulaire beaucoup plus importante, beaucoup plus marquée. Les dysfonctions apparaissent plus vite, le traitement réagit beaucoup plus vite. Et par ce biais, donc évidemment, ça va être une discipline complémentaire à l'ostéopathie.
On va poursuivre avec ça pour essayer de voir concrètement... sans trahir évidemment le secret médical, vous ne nous direz pas des noms, mais comment ça peut fonctionner au cas par cas avec vos patients. Avant d'écouter le morceau suivant, et comme on est dans une émission quand même sur la santé, une annonce essentiellement, je pense, pour nos auditeurs. À ta santé toi aussi, Pascal. Je pense que c'était plus pour les auditeurs dans le bar, vu que c'est une manifestation qui a lieu vendredi, et je ne suis pas sûre que l'émission sera déjà en ligne à ce moment-là. Donc, les salariés de l'hôpital du Havre sont en grève devant la nouvelle maison de l'ado, 69 rue d'Ingouville, vendredi, donc ce vendredi à 11h, pour que l'ARH, l'agence régionale créée par Juppé, nous dit-on, finance les projets du service public et n'oblige pas l'hôpital du Havre à remplir les poches de la Générale de Santé, regroupement de cliniques cotées en bourse. Voilà, je crois que c'est important de le dire. Donc ils vous appellent à venir nombreux les soutenir, soutenir le service public de santé au Havre, donc vendredi à 11h devant la maison de l'ado. Thank you.
beba nabi kelena hami chogoni o beba na miri chogoni o beba na kamana goa miri chogu o beba na furukunye chigide ye benkano nyofo kamfuro nyofo furukunye jigide ye jigi amina fara Togotia Narungo era mogomina Alani mogontanya ni togontanya Adiara nela abi Alani furuke nyumantigia Benka no nyonfo sheri sheri Kamfuro nyomfo kabari kada furu kunye jigi minye Aha no jigi amina mfara okafo Furu nyonjogo debi furu kendo ninye Furu yara jugu debi, furu ke jonyaye Ni furu laika no nyoma, ni oma laido tinye Ni furu laika no fo nyoma, ni maboye Na umanyo soso O furu beke herai Kele nyani sutara konuna Benkano nyonfo Kamfuru nyonfo Jigi amina fara Furu dambe bebana O furu kono sutarabana O furu kelenya benimbana Benkano nyonfo sheri sheri Kam furu nyonfo kabari kada furu kunye jigi minye Aha no jigi amina fara o kafo Yari la nebi fe Ali domani.
Donc, après ce très beau morceau qu'ont choisi une fois de plus Baptiste et Sophie et dont on n'a pas encore donné le titre,
c'était Roca Traoré.
Rocca Traoré.
Magnifique album.
En tout cas, on peut dire quelque chose, c'est que c'est certainement un sujet passionnant et qu'on a, si j'ose dire, mis le doigt vraiment sur quelque chose avec cette émission et votre intervention. Puisque pendant le morceau de Rocca Traoré, je crois que peu de gens ont écouté la musique et ça parlait tous azimuts. Tout le monde a des exemples de j'étais mal soigné par ci, j'étais plus soigné par ça, ça fonctionne comme ci, etc. Et à ce propos,
je voulais repréciser ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que, comme je disais, s'il y a une personne qui comprend mal ce que j'ai dit, ça veut dire qu'il y en a peut-être plusieurs qui l'ont mal compris, donc je préfère repréciser. Mon propos était de dire qu'il y a une certaine réticence de la part des ministères à vouloir reconnaître l'ostéopathie en tant que médecine et pratique, parce qu'elle fait peur, justement, dans le sens où elle peut guérir,
elle peut faire concurrence, en
fait. Elle peut faire concurrence à la médecine, voilà. Elle peut faire concurrence à la médecine traditionnelle ou allopathique, et du coup, elle fait peur aux autres, au ministère, qui se disent qu'il va y avoir une grosse concurrence. Donc voilà,
mais il faut dire aussi que dans l'ostéopathie aujourd'hui, on voit un peu tout et n'importe quoi. Parce que, comme a dit Baptiste tout à l'heure, il y a des formations en 2-3 week-ends, il y a des formations en un an, un week-end par mois, il y a des formations en 3 ans, il y a un peu de tout. Donc les ostéopathes ne sont pas égaux. Donc on attend justement un diplôme d'État pour cadrer cette profession à part entière.
Oui, donc c'est important. Parce que c'est vrai que très récemment, on a encore eu le cas pour lutter éventuellement contre des charlatanismes de psychanalystes autoproclamés. Alors, c'est compliqué parce qu'on sait bien qu'effectivement, il n'y a pas forcément de diplôme de psychiatre pour être psychanalyste, dans de nombreuses écoles, et c'est une pratique que, enfin, en tout cas, personnellement, je ne remets pas en cause. Je ne suis pas forcément au fait de tout, mais bon. Que quelqu'un va faire lui-même une thérapie,
voilà, c'est une analyse.
Puis ensuite, après cette analyse, se sent proche ou non d'une école psychanalytique et ouvre un cabinet, pourquoi pas, et ça peut donner d'excellents résultats. Maintenant, voilà, c'est toujours pareil. La part est difficile à faire entre charlatans. Enfin, moi, sur la place du Havre, déjà, j'ai des doutes pour être rentrée une fois dans un cabinet sur des gens, toi, qui ont pignon sur rue, qui sont un jour psychanalystes, le lendemain sophrologues, le surlendemain autre chose. Donc ça, c'est assez normal qu'on essaye de cadrer ça pour que des gens qui ont de véritables problèmes, des gros problèmes mentaux et de santé, du coup, ne se retrouvent pas escroqués, tout simplement. Et en même temps, tout cadrer d'une manière administrative comme ça n'est pas forcément possible non plus. Bon, ça s'éloigne un petit peu de, on l'a bien compris, hein, de l'ostéopathie, puisque là, en l'occurrence, vous avez très bien expliqué en quoi vous avez des connaissances précises, une formation précise, que vous revendiquez d'une durée, en tout cas telle qu'elle est maintenant, de 6 ans, et sanctionnée par un diplôme. Donc évidemment, hein, voilà, les parallèles, on ne va pas les faire de manière hasardeuse. Hein. Pascal ?
Non, je voulais savoir si l'ostéopathie était reconnue dans les autres pays ou pas.
Bien sûr.
Voilà.
Elle est reconnue dans plusieurs pays européens. Elle a été reconnue le 31 janvier 2007 en Catalogne. Elle est reconnue en Belgique. Elle est reconnue en Suisse.
En Angleterre,
bien sûr.
Aux États-Unis, forcément.
Alors, aux États-Unis, mais elle est un petit peu dénaturée aux États-Unis. Ouais. C'est un peu compliqué. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont perdu un peu le concept philosophique dans sa globalité. Donc finalement, maintenant, aux États-Unis, c'est les étudiants qui n'ont pas réussi leurs études de médecine qui se retrouvent ostéopathes.
Tu rates ta médecine, tu deviens ostéopathe.
Voilà. Et en fait, les ostéopathes aux États-Unis peuvent prescrire, ne font pas déshabiller leurs patients puisque il y a aussitôt harcèlement et avocats, etc.
Donc c'est rentré dans le système, mais d'une façon perverse.
Au rabais, en tout cas, on peut dire, parce qu'effectivement, ça va contre ce que vous
donc
dites.
Donc c'est aussi une, de façon restrictive aux États-Unis, on peut dire, oui.
Ouais. Une question, alors je crois que bon, elle est valable pour tous les domaines, à mon avis, que Bénet nous a écrite, c'est comment savoir quel est justement un bon ostéopathe ou qui va être un charlatan. Mais ça, voilà.
Alors il y a le label DOMROF, dont je fais partie. Je suis membre du registre des ostéopathes de France. Donc le ROF est garant de la déontologie de la profession et de la sécurité du patient. Pour entrer au ROF, il faut faire un dossier d'une quinzaine de pages. Donc sont pris au ROF les ostéopathes qui ne font que de l'ostéopathie, donc de façon exclusive, et qui ont une formation assez complète. Voilà.
Bon, c'est déjà important. Je crois que ça répond en partie effectivement à cette question. Après, en même temps, nous l'avons tous constaté, un généraliste, un dentiste, un chirurgien, un psychanalyste, quoi que ce soit, un boucher, oh, c'est dur à dire quand on est végétarien, mais enfin bon, dans toutes les professions,
c'est le label.
Des journalistes, des musiciens, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Et
exactement.
Voilà. C'est vrai que c'est déjà une bonne garantie de faire partie de cette association. On peut dire ça pour tous ceux qui, désormais, souhaiteraient consulter un ostéopathe.
On va... Oui. Ou alors, s'il n'y est pas, il ne va pas tarder à y être, peut-être.
Oui, parce que moi, je suis actuellement, en fait, dans l'année de mon mémoire. C'est-à-dire que j'ai fait mes 5 ans d'études et ma 6e année est consacrée aux mémoires pour obtenir... Donc, je suis cliniqué en ostéopathie et... Une fois que j'aurai rendu mon mémoire qui sera accepté, je serai diplômé en ostéopathie.
Juste pour faire une petite blague, puisque Cécile a fait son mémoire a fait son mémoire en bande dessinée, peut-être que pour un ostéopathe, tu pourrais le faire en mime.
Oui. Ça va être simple.
Une suggestion.
Ça va être simple. Juste une parenthèse, du coup, ton sujet de mémoire.
Ah, mon sujet de mémoire, c'est la vision ostéopathique des douleurs et des sensations du membre fantôme.
Ah ouais. Tiens, voilà, tout le monde ne sait pas ce qu'est un membre fantôme.
Alors, le membre fantôme. Le membre fantôme, c'est la perception que ressent un patient amputé. La perception encore vivide de son membre, en fin de compte. Et donc, il ressent des douleurs. Donc, 95 à 100% des patients amputés ressentent encore leur membre après l'amputation. Et donc, j'essaye de faire le lien entre l'ostéopathie et ça, et quels pourraient être les moyens que l'on pourrait apporter à ces douleurs et ces sensations qui handicapent franchement les patients.
Écoute, ouais, t'es...
Voilà. Hormis les antalgiques, hormis les...
Eh oui.
Voilà, j'aurais une petite autre chose à dire. Donc, sur les projets de décret qui n'ont pas été encore signés, qui stipulent que nous interdisent dans notre profession d'ostéopathe de manipuler les bébés de moins de 6 mois, de soigner aussi les femmes enceintes, de les manipuler le rachis cervical et de pratiquer des touchés pelviens. Donc voilà, donc ces pratiques, donc nous on soigne les patients, les êtres humains de J plus une heure à J moins une heure, donc tout le monde peut être soigné en ostéopathie. Il n'y a pas de restriction de population, et donc les pratiques qu'on peut faire, ça fait vraiment partie de intégrante de notre profession, en fait. Les bébés, on les soigne juste après la naissance, puisque la naissance, c'est en fait un traumatisme, le premier traumatisme de notre vie.
C'est sûr.
Donc, ceux qui ont verbalisé ces projets de décret, ils n'avaient pas, je pense, il n'y a pas de texte écrit disant que l'ostéopathie est dangereuse chez les bébés de moins de 6 mois.
Il n'y a pas eu d'études précises qui ont été menées pour pouvoir argumenter ça, par exemple.
Voilà, exactement.
D'accord.
Et à contrario, par contre, il y a eu des exemples probants de soins qui ont été donnés à des bébés après la naissance, par exemple des bébés qui ont été sortis avec des forceps ou avec les ventouses ou de manière un peu je vais pas dire rock'n'roll, je vais me faire taper dessus.
Va, n'exagère pas.
Le rock'n'roll à la naissance, c'est un peu tôt quand même.
C'est une double façon de dire que le rock'n'roll est
pas forcément une façon. Je veux dire. Regarde François.
Justement, il y a une pratique en ostéopathie qui permet de remettre un petit peu en place ce qui a été bousculé pendant l'accouchement, l'accouchement, la délivrance chez le bébé. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ça?
Je suis un peu embêtée parce que justement, je proposais, en tout cas, je me proposais qu'on passe la parole à Pascal pour sa seconde chronique tout en sachant que la transition n'était pas facile, à part le morceau de musique, bien sûr, qu'on va écouter, et que vous puissiez nous détailler, en prenant tout votre temps,
toutes
ces pratiques de J+1 à J-1.
Chaque rêve semblait à notre portée, toi et moi contre le monde entier, défiant les gens, leur vérité. Je me rappelle encore de ces nuits à rire, à boire et à pleurer. Toi mon ami, ce frère que je pensais pour l'éternité. Je me rappelle encore de ce matin quand deux cœurs se sont frôlés. 5 guerres plus tard, on s'est saoulés, on a remis ça toute la journée. Nos deux guitares désaccordées chantaient des airs qui nous sont restés. C'est la gloire, on y croyait dur comme fer, comme notre amitié. Qu'il aimait, la pizza, c'est pas grand chose qu'un peu de spin, qu'un peu de prose. Pour une femme, on se damerait, on trahirait son frère, on le saignerait. Je me rappelle encore de ce matin quand deux cœurs se sont frôlés. 5 pierres plus tard, on s'essuie, on a remis ça toute la journée. Nos deux guitares désaccordées chantaient des airs qui nous sont restés. Tu sais la gloire, on y croyait dur comme fer, comme notre amitié.
quelle animation, mais on vous le dit, hein. Le sujet de l'ostéopathie en particulier et de la santé en général, les amis, waouh, à part la bière, le rock'n'roll et les manifs en 2003, je crois qu'on n'a jamais eu autant de débats, et même, je suis pas sûre, autour de la table et dans le café. Eh bien, c'est très bien. Mon cher Pascal, on n'a pas présenté le morceau tiens, qu'on a écouté. Non, ça, c'est pas bien, par contre.
Ah si, c'était « Ceux qui marchent debout ».
Voilà, « Ceux qui marchent debout ouais. », magnifique. Oui, qui était, je crois, nom de tribu indienne, non, une époque. Enfin bon, oui. On va pas chipoter là-dessus tout de suite, parce que sinon, ça va nous éloigner peut-être de ta chronique.
Bah, une BD qui cadre très bien encore avec le morceau qui
s'appelle
« Le cadavre et le sofa ».
Voilà.
Donc, d'un dessinateur qui s'appelle Tony Sandoval, d'un scénariste qui s'appelle Tony Sandoval, d'un coloriste qui s'appelle comment ?
Tony Sandoval !
Ah, bien ! Oh, vous avez eu ! Chez un éditeur qui s'appelle Paquet, dans une nouvelle collection qui s'appelle Discover, ça vaut 16,50€ pour ceux qui veulent savoir. Donc, c'est l'inauguration d'une nouvelle collection chez l'éditeur suisse Paquet, après la très belle collection qu'il nous avait fournie Blandis, dont j'avais chroniqué il y a fort longtemps. Un Betty Blues de Renaud Dillis qui était centré sur la musique effectivement blues, hein, qui était hyper intéressant et depuis qui a proposé plein de choses intéressantes, hein, avec un format assez grand qui détonnait un peu dans la collection, dans le ton avec des albums traditionnels. Donc, en principe, la collection Discover présente une collection qui aura pour but de faire découvrir des productions d'auteurs de tous horizons, confirmés ou pas, donc il y aura certainement des gens connus dedans. Et Discover se décline comme un label intimiste, graphique, avec des scénarios très personnels. Tous les albums sont des one-shot, c'est-à-dire un album tout seul, il n'y aura pas de suite.
Pas de série, pas de feuilleton. Voilà.
De 80 ou 120 pages, qui déjà est pas mal.
Quand même, oui, un bon morceau.
Faire quelque chose de très bien. Le jet est fort sympathique, puisque, en fait, on va dire que c'est un petit cahier d'écolier, style au format un peu des cahiers de texte.
Oui, c'est vrai, c'est hein, joli.
Ça ressemble à ça. Mmh. Avec des coins arrondis pour les collectionneurs, parce qu'ils apprécieront, ça évite de taper les coins un peu partout et de les casser les coins.
Ah oui, après,
donc
c'est
déjà,
tout
ils sont arrondis, donc voilà. les collectionneurs apprécieront.
D'accord. Mais parce que, effectivement, donc, c'est un collector, mais dont les coins sont cassés, ça sent quand même.
Bah ouais, non, puis c'est embêtant quand même. C'est frustrant quand même pour le collectionneur. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi.
C'est très intelligent.
T'abîmes l'objet quand même.
L'ostéopathie peut pas remettre les coins.
Je pense effectivement, peut-être, effectivement, c'est les collectionneurs vont aller voir les ostéopathes après pour se remanier un peu le dos. Parce qu'après ils sont un peu. C'est pas les coins sont cassés, mais le dos aussi. Si
Donc un bel objet.
Donc voilà un bel objet. D'autant plus que sublime petite surprise, nous avons aussi un petit marque-page dedans en soie, quand même, relié au bouquin.
La classe.
La classe, quand même, hein, n'est-ce pas ? Et donc, on va dire quand même que ça tape très fort le départ, parce que Tony Sandoval, qui est né dans le nord-ouest du Mexique, moi, après avoir travaillé dans les agences locales de graphisme, design, il a décidé de s'orienter vers l'illustration et la BD. Après quelques autoproductions et petits travaux, il réalise quelques-uns des nombreux projets qui occupent pour l'instant les cartons dessin qu'il a chez lui, mais qui commencent à sortir. Inconnu pratiquement en France, sauf un album qui est paru chez Paquet en mars 2005, qui s'appelle Vieille Amérique. Alors, Vieille Amérique, en fait, c'était l'histoire de Don Ruiz, un homme tyrannique et cruel.
Tyrannique et cruel qui...
Oui, s'approche de la fin et éprouve le besoin de rencontrer son fils unique qu'il n'a jamais connu. Bon, ça se passe quand même au 15e siècle, hein, ouais. Pour situer un peu. Juan et Gutiérrez, deux aventuriers, pensent qu'en son fils, le fils d'Orvis, se montrera généreux. Il décide alors de lui présenter un fugitif espagnol comme étant son fils, des beaux gars. Forcément, ça se tourne pas forcément comme ils veulent. Donc c'est un album qui était assez drôle en fait, et cynique quand même quelque part, parce que bon, l'histoire est un peu tragique. Mais qui est leur métier d'être plus développé sur au moins deux albums. Mais avec ce cadavre et le sofa, on découvre pleinement le talent de Sandoval, car cet album
un brin glauque et brut, faut bien le dire, de l'auteur, empreint d'une poésie macabre. L'histoire étonnante d'un jeune garçon secoué par la disparition d'un de ses amis et qui va rencontrer une étrange et belle fillette à l'allure mystérieuse et au comportement quelque peu provocateur. Ils partiront ensemble après à la rencontre de son compagnon de jeu, celui qui est disparu, et finiront par découvrir son corps sans vie, au beau milieu de nulle part. Ils vont passer l'été à observer les états de décomposition du cadavre sur un vieux sofa, alors que la peur des loups-garous échappés des histoires des gens du village est omniprésent.
En effet.
Hein ? Donc une surprenante histoire d'amour et de rencontre et de mort, très influencée inconsciemment ou pas par Tim Burton, Les Amoureux de Péné, en passant par Dave McKean, l'auteur de pas mal de choses.
Très
au niveau
cocktail.
De... Ouais, l'auteur de pas mal de BD, notamment... plutôt référencé sur cet album-là au jour où j'ai échangé mon père contre deux poissons rouges. Et puis Les loups dans les murs, en fait, deux albums qu'il a fait pour la jeunesse parce qu'ils sont vraiment très très bien, très axés sur le fantastique et l'horreur, mais très intéressant. Bref, faut dire qu'aussi Dave McKean a fait aussi quelque chose qui s'appelle Mirror Mask, un film Mirror Mask qui est très basé sur en fait le principe de Alice au pays des merveilles d'une autre façon. Mais qui est très intéressant, film qui est sorti en DVD que je vous conseille fortement.
Un film d'animation disponible en France depuis un an environ, ouais. Et qu'il est très.
Et que vous allez nous prêter l'un ou l'autre.
Il n'y a pas de problème, hein, mais qui est très très beau. Bref, de la belle ouvrage. Et pour faire cette fois, vous pouvez mettre la main au paquet, ce n'est pas impoli.
Ah
ça vous fait rire, je le savais. Oh
oh eh bien, on ne va pas s'en priver.
We'll be right back.
Les bébés. Quoi ? Les bébés, mais... c'est une des questions qu'on abordait juste avant la chronique.
L'aborder, pas maintenant plus celle-là. Avec les bébés.
De Pascal. Oui, c'est vrai, les bébés, on peut les border.
Non, sauf que maintenant, ils dorment plus avec des couvertures.
C'est vrai.
C'est vrai. Bon, enfin, bref, c'était pour un jeu de mots. Donc, donc on disait J plus une heure.
Jusqu'à J moins une heure.
J moins une heure. Quelques exemples peut-être de ces pratiques dans votre profession d'ostéopathe avec les tout petits enfants, voire les nourrissons, pourquoi pas. Baptiste, Sophie. Ouais.
Mmh. Alors les petits bébés, ben les petits bébés sont évidemment à conseiller aux mamans de venir nous voir le plus tôt possible, parce que non seulement ben un petit bébé ben ça évolue très vite, ça répond très vite. Donc par rapport soit à un traumatisme qu'il a subi pendant l'accouchement et aussi parce que après l'accouchement, et donc c'est conseillé pourquoi ? Bah parce que pour différentes raisons qui sont je reprends, je suis mal parti. En gros, les bébés, quand est-ce qu'on qu'ils peuvent venir nous voir ?
Donc par prévention.
Ouais, déjà par numéro prévention. Ouais, par prévention. Et aussi pour tout ce qui est troubles donc de nervosité, de régurgitation, tout ce qui est déformation du crâne, on parle de plagiocéphalie, les têtes plates. Mais aussi pour les coliques du nourrisson, pour les donc tout ça.
Les problèmes de sommeil, voilà. Etc. Ouais.
Donc plutôt en fait une personne viendra nous voir dans sa vie plus vite ou mieux s'adaptera pendant sa croissance. Et donc ça découle du bon sens, et c'est pour ça que l'ostéopathie marche très très bien pour les nouveau-nés, pour les bébés, parce qu'ils réagissent très très vite et parce que ils ont
Est-ce qu'ils réagissent d'autant plus vite qu'ils n'ont pas forcément comme dès qu'un enfant enfin j'en sais rien quel âge exactement, mais bon, des résistances qui viennent de l'éducation, qui viennent d'a priori ou de choses comme ça.
Je vois pas le rapport directement ouais, comme ça.
Moi,
mais...
il me semble qu'un adulte, par exemple, moi, comme tant d'autres ici, je pense, si tu veux, on peut avoir des blocages. On a assez parlé de blocages ce soir par rapport à des nœuds qui sont faits à un moment donné, c'est ou là, et être dubitatif par rapport au médecin ou au thérapeute lui-même, ou pas vouloir reconnaître quelque chose.
Donc, et j'imagine en tout cas qu'un petit peu n'a pas ça, quoi, n'a voilà. pas d'a priori.
Enfin, je ne sais pas si c'est une des raisons pour lesquelles ça marche bien avec eux, mais voilà. C'est une piste en tout cas. Hein. Bon, voilà. Je ne sais pas.
Est-ce que je peux demander, moi, l'adulte, lui, parle, on parle de l'amnèse, c'est ça, quand vous accueillez pour la première fois, il se raconte, alors que le bébé, lui, il ne dit rien.
On demande à la maman comment s'est passée la grossesse, s'il y a eu des stress, s'il y a eu des chutes, s'il y a eu un traitement médicamenteux, comment s'est passé l'accouchement aussi. La maman connaît très bien.
Il y a un médiateur.
Voilà, médiateur est important, effectivement.
Et puis, aussi, je pense qu'il y a une partie qui est l'observation du corps et le fait que le corps parle aussi. C'est-à-dire que même chez un adulte, il y a cette première partie, donc qui est la discussion, l'échange entre le patient et le praticien, mais il y a aussi l'observation du corps du patient par rapport aux postures, par rapport aux attitudes, par rapport à la manière dont on va se comporter avec son corps. Donc chez le bébé, c'est ça aussi, c'est l'observation de la
comme
manière.
Comme disait Roline Becker, seuls les tissus savent. Voilà, donc nous, on interroge pas le corps, mais on teste les tissus du corps humain, et par là, on devine en fait s'il y a eu des traumatismes ou s'il y a eu des choses dures à digérer ou des choses comme ça. Donc on va être à même de répondre. On peut soigner, par exemple, un sourd-muet.
Explique-nous, parce qu'alors là, je voudrais voir.
Donc, j'ai pas eu de sourd et muet à mon cabinet, précisément. Mais par exemple, on peut soigner les bébés donc ils ne parlent pas. Même si la maman fait le médiateur, on s'intéresse au bébé et pas au vécu de la maman. Il y a aussi l'ostéopathie faite sur les animaux.
Donc oui. Là, les animaux ne parlent pas non plus. Et
en tout cas, ils parlent dans un langage qu'on ne comprend pas.
Voilà, exactement.
Au-delà du langage corporel. Non, mais oui, bien sûr. On a beaucoup dit que, peut-être pas encore assez, j'espère que c'est vraiment concret hein, pour nos audinotes, mais je crois que ça le sera, qu'effectivement, dans votre formation, il y a tout cet aspect pratique. D'ailleurs, bon, on voulait parler de réussite dans les soins, et on voulait aussi revenir sur la formation. Il y a un truc qui, à mon avis, est lié, c'est quand même ça, on n'a pas dit tout à l'heure qui était, tu as employé ce mot, bon, on va mettre plein de guillemets, hein, les cobayes pendant votre formation, voilà, comment se passe, comment vous vous exercez et sur qui pour justement développer un toucher qui puisse être analytique et comme disait Leslie, ce petit scanner dans les 10 doigts, quoi.
Oui, donc dans le cursus ostéopathique, on est dans une promotion où justement on apprend à palper, on apprend à sentir, et jusqu'à la troisième année, on pratique entre nous. D'ailleurs jusqu'à la cinquième année, hein. On se met par binôme. Donc la plupart du temps, on se retrouve en caleçon dans la classe et on pratique sur nous. Donc ça passe non seulement par une pratique, mais aussi par un vécu, parce que toutes les techniques qui sont effectuées pendant le cursus sont pratiquées sur nous. Donc on ressent ce que la technique peut produire, même si elle est mal faite, de toute façon il faut bien apprendre. Et on ressent aussi les effets positifs du traitement.
Ah oui, donc, ben ça c'est important. Non mais oui, c'est important. Arrêtons-nous juste un petit peu là-dessus, parce qu'effectivement, c'est une première manière de vérifier ce pourquoi vous êtes en train d'étudier et de ce dont vous voulez faire une profession, quoi. Ouais. Déjà, quand est-ce que ça vous arrive à l'un ou à l'autre, je te demande de ressentir des bénéfices. Bon, tu dis que ça peut être maladroit, forcément, c'est la formation, mais bon, des bénéfices ne serait-ce que dans des entre guillemets exercices pratiques, des TP pendant votre formation.
Moi, je dirais non, parce que quand on apprend, on apprend des techniques sur une région, anatomique, cervicale ou sur un muscle précis. Et c'est pas une prise en charge globale. D'accord. Donc pour les étudiants qui voient bien les effets de l'ostéopathie, c'est quand ils vont voir un professionnel.
D'accord.
Ça voilà. C'est sûr.
Ouais. Ok, oui. Même si on pouvait, d'accord.
Question idiote. Vous pratiquez avec un binôme. Et est-ce qu'on peut, ostéopathe, se pratiquer sur soi, trouver...
Eh ben, c'est un peu dur quand même.
Voilà. C'est pourquoi la question était idiote.
On peut conseiller des exercices. Possible. Oui, c'est possible. On peut conseiller à des patients des exercices, mais alors qui dépassent du domaine de l'ostéopathie.
C'est pas aux patients, je vous demande, c'est dans votre formation.
Ouais.
Est-ce que vous avez été tenté de
s'auto-traiter? Tout ce qui est abordable par les mains, on peut dire que oui, on peut se masser le ventre,
À la fin de la formation, en fait, elle doit d'honneur.
on peut se bouger une cheville. Mais de là à se traiter complètement, non, on peut pas. Comme on dit en ostéopathie, on peut pas traiter sa famille parce que il y a le contexte affectif qui intervient dedans et qui est très important parce que le rôle du thérapeute doit être neutre. Oui. Il doit pas rentrer en empathie avec le patient. Il doit rester point d'appui, c'est-à-dire il doit rester point d'appui.
C'est-à-dire que si tu accueilles quelqu'un. Si tu connais d'autres membres de sa famille, d'autres paramètres, ça peut fausser ton diagnostic.
Moi, je le fais quand même. Hein.
Bon.
Parce que je me prépare en situation, en fait. Je me centre sur moi et j'oublie tout. Et je soigne un être humain, en fait. Hein. Donc, que ce soit mon frère, mon père ou ma sœur, il n'y a pas de différence.
D'accord.
Ouais, je parle de façon inconsciente aussi.
Bon, c'est sûr. Alors, c'est pas écrit dans la charte déontologique pour l'instant des ostéopathes. Que...
Pas pour l'instant, non. Après, c'est chaque praticien qui fait aussi.
Voilà, c'est
selon
ça, exactement.
Son ressenti.
Selon son ressenti, ouais.
Voilà.
Bon, bah, écoutez, on le voit bien ce soir, puisque vous en êtes deux exemples. Ouais. Bon, c'est bien aussi, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, bon, du coup, donc, pour revenir sur cette formation.
Oui, donc, alors, on revient sur le cursus ostéopathique. Donc, on travaille en binôme, on pratique les uns sur les autres. Puis, à partir de la quatrième année, il y a une clinique interne. interne, donc dans l'école, sur lesquels qui acceptent des patients et sur lesquels on vient pratiquer, c'est-à-dire qu'on va faire une consultation comme si on était au cabinet, comme si on était professionnel. On est évidemment encadré par des professionnels, par des profs qui pratiquent déjà depuis longtemps. Et là-dessus, donc on va effectuer un traitement avec tout un protocole normal d'une consultation. Donc là, la clinique, ben, évidemment, elle est importante. Donc à partir de quand on exerce, eh ben, à partir de la quatrième année, j'ai envie de dire, même avant, ou même si on fait que du bidouillage, l'important, c'est de pratiquer, de former sa main aussi par rapport à tout ça.
Est-ce que justement, pendant ces, à partir de la quatrième année, donc durant ces deux années où vous pratiquez en tant que clinicien, est-ce que vous êtes rémunéré ou pas ?
Non.
Ou est-ce que
non.
vous êtes toujours considéré comme étudiant, donc en n'ayant pas la possibilité
étudiant.
Voilà.
On est étudiant.
Donc c'est-à-dire que ces deux ans de pratique professionnelle, elles restent dans le cursus scolaire.
Exactement, oui.
Et vous êtes toujours pas... C'est comme si vous étiez en stage pratique, quoi.
C'est ça.
Exactement,
oui.
Okay.
Et vous n'avez absolument pas le droit de vous faire rémunérer.
Non. Non, non. Là, les patients payent une petite somme pour accéder au traitement, comme dans les écoles de coiffure, les écoles
oui.
de dentisme, où on peut aller...
Donc c'est pour...
comme...
pour la rémunérer, le système, en fait.
Voilà.
Pour aider peut-être, je ne sais pas... Il y a du matériel. On n'a pas tellement parlé de ça, tiens, dans votre profession. Parce que j'étais en train de penser que, dans certains domaines... Bon, la coiffure, c'est quand même... On va le mettre de côté
une
pour
table.
L'instant.
Ouais.
Mais pour ce qui consiste en soins dentaires ou autres, effectivement, souvent, dans les écoles, il y a une petite participation qui sert, si ce n'est à rémunérer l'étudiant qui pratique, mais du moins pour le matériel.
Mm-hmm.
Dans votre profession, il n'y a pas beaucoup de matériel, peut-être.
Nous avons besoin de nos mains, essentiellement.
C'est bien.
On peut pratiquer donc partout.
Ça, c'est formidable.
Ce qui est mieux aussi pour notre confort et celui du patient également, c'est une table. Une table électrique, ça peut servir aussi pas mal. Également des doigtiers pour les techniques intrabuccales. Et des gants, etc. Ou des draps d'examen. Mais
ouais.
c'est
donc, c'est un matériel léger quand même.
Voilà, exactement.
C'est l'avantage.
Donc,
oui.
Est-ce qu'on revient à nos patients ?
Mais revenons à nos patients.
Pas
aux leurs surtout.
Parce qu'on a commencé par les bébés. On a donné quelques exemples de pratiques de soins auprès des bébés. Chez l'enfant, on en a donné quelques-uns par rapport
oui,
à.
Oui, alors on a oublié de parler, je pense, des maladies à répétition.
Oui.
Donc les bronchiolites à répétition, les rhumes à répétition, les angines à répétition,
les
etc.
Otites, les tout ce qui est
voilà,
en lit, quoi.
Les otites, voilà, exactement. Donc là aussi, on peut avoir une action. En fait, on ne va pas avoir une action sur le microbe ou le virus, ou etc. On va avoir une action sur le terrain du patient, du petit patient. Et ça, on peut vraiment améliorer ces symptômes-là.
Ce qui veut dire que, parce qu'on est en train de parler, finalement, on hoche tous la tête, on est là, oui, d'accord, c'est bien. Mais pour plus de clarté, j'en suis sûre, et sans prendre, évidemment, ni les auditeurs dans le café, ni les audinotes pour plus niais que nous, loin de nous cette idée. Mais,
non, parce que vous êtes déjà de balèze.
Merci, Pascal. Mais je t'incluais dans le nous en même temps. Mais
surtout toi.
Juste
bah,
pour dire que, non, quand je dis on acquiesce à vos propos, en fait, comme s'il était sous-entendu que forcément avoir des maladies à répétition, ça voulait dire qu'il y avait un terrain au départ plus ou moins fragile pour ceci ou pour cela. Or, ce n'est pas forcément bien entendu par tout le monde. Donc peut-être que ça mériterait d'être un tout petit peu développé. Qu'est-ce qui peut faire que, justement, déjà tout petit, on ait plus régulièrement que d'autres des otites ou des bronchiolites? Bah oui, quand même, parce qu'il y a le soin, d'accord, mais je suis désolée, effectivement. Est-ce que ça vient de quelque chose au niveau
alors,
psychique?
Alors là aussi, c'est cas par cas.
Voilà.
On ne peut pas donner de recette miracle. Justement, c'est justement contraire à l'ostéopathie, c'est les recettes. Donc on prend en considération l'être humain qui se présente à nous et chaque patient est différent, chaque être humain est différent et on va le soigner de différentes manières. Donc pour les autres, pour les uns, ça va être un blocage des structures du sacrum ou de la sphère crânienne ou du diaphragme.
etc. Pour les autres, je sais pas, on peut pas répondre à cette question. Non, mais bien sûr, c'est beaucoup trop vaste.
Non, mais en même temps, voilà, tant y a mieux pas si de... tu veux. Je trouve que déjà, tu as dit pas de recette. Ah, c'est dommage pour les cuisiniers. Mais pas de recette miracle, ça fait extrêmement plaisir et ça permet aussi, de, une fois de plus, de recadrer bien de quoi on parle. Et en effet, je me doute bien que tu ne vas pas me dire il y a à chaque fois quelque chose qui fait que... Mais c'est important de pouvoir essayer de voir que c'est... tu as abordé ça tout à l'heure, commencé à l'aborder, qu'il pouvait se passer, par exemple, des choses déjà à l'intérieur du ventre de la mère. Et voilà, peut-être que c'est aussi... un des aspects, je suppose que forcément, selon ce que vit la maman, et donc...
un stress important, voilà. Ou une chute sur le sacrum peut, voilà. Peut intervenir des réactions au niveau du fœtus, évidemment.
Des mauvaises postures aussi, des mauvaises attitudes. Par exemple, une maman qui, jusqu'à très peu de temps avant l'accouchement, a un travail contraignant ou répétitif... est-ce que ça peut provoquer des troubles justement chez le fœtus?
Eh bien là aussi, c'est pas à 100%. Il y a des femmes qui vont pouvoir travailler jusqu'au dernier jour et qui vont bien se porter et le bébé aussi. Et pour certaines femmes, la maman ferait mieux de s'arrêter un peu et de souffler et de se reposer, voilà, pour que le bébé aussi se sente mieux.
Ça paraît évident.
Bon, on n'a pas le morceau d'Igelin à alerter les bébés, c'est bien dommage. Ça aurait fait plaisir à tout le monde, et notamment à Dom et Coco, pour avancer dans la vie de tous ces êtres humains uniques que sont vos patients. Qu'est-ce que vous pourriez nous citer comme réussite curative dans ce que vous faites? Parce que ça fait quand même plaisir, je suppose.
Donc voilà, donc je... j'ai relevé, donc juste avant de voir l'émission, j'ai réfléchi un peu aux patients que j'avais nettement amélioré leurs symptômes. J'ai pas tout répertorié parce que c'est pas mon but, hein. Dans la vie, je suis un petit peu humble et par exemple, j'ai eu un patient qui a eu un traumatisme étant tout petit. Qui a une cinquantaine d'années, qui a mal au dos depuis son adolescence, qui a des hernies discales qui ne sont pas opérables et qui ne sont pas assez douloureuses ni aussi paralysantes pour se faire opérer. Donc il traîne son mal de dos depuis une cinquantaine d'années, voire une quarantaine d'années. Et finalement, en travaillant principalement la sphère viscérale, en lui apprenant à respirer avec la respiration abdominale, en travaillant le système viscéral et en manipulant ses organes pour les rendre nettement plus mobiles, il a récupéré une souplesse au niveau du dos qu'il avait pratiquement jamais eue.
C'est très bien que tu parles de ça parce que justement...
On a quelques patients, on va dire, dans le bar.
Voilà. Et on croyait à tort que justement le domaine des hernies discales ne faisait pas partie de votre domaine de compétence. Tu vois, comme quoi il est possible de,
oui,
en travaillant éventuellement sur autre chose, comme tu le disais, de permettre en tout cas une plus grande souplesse et une disparition de la douleur, en tout cas, on peut dire ça.
Donc là, oui, pareil, le patient de Sophie avait été diagnostiqué comme ayant des hernies discales qui étaient non opérables. Et donc, par ce biais-là, elle a pu travailler dessus. Mais si un patient qui vient avec justement une paralysie d'un membre ou qui ne sent plus un membre ou qui a des dorsalgies, on va faire tous les tests nécessaires pour exclure une hernie discale. On l'envoie chez son médecin qui va faire des examens complémentaires. S'il y a une hernie discale qui a besoin d'être opérée, il va se faire opérer. Par contre, l'ostéopathie, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ben, elle peut travailler après l'opération. Mmh. Elle peut travailler après l'opération en aidant à améliorer donc, la cicatrice, à améliorer tout ce qu'a provoqué le traumatisme de l'opération. Mmh. Maintenant, il y a des hernies discales qui sont non opérables. Il y a des hernies discales qui ne sont pas énucléées, on appelle ça, qui ne sont pas sorties, qui provoquent juste une gêne dans le dos avec des douleurs et puis des irradiations dans la jambe. Que là aussi, on peut régler le problème en soulageant la structure
qui va contraindre ce phénomène.
Par exemple, excuse-moi, ça m'a fait penser ce que tu disais en parlant des radiations dans la jambe. Un mal assez commun par les lombalgies, apparemment, c'est la sciatique, liée ou pas, vous allez nous le dire, et dont généralement, ma foi, de généraliste en généraliste, de cachant en cachette,
antalgique,
les gens ne se sortent pas. Donc, comment procédez-vous et en quoi pouvez-vous avoir des succès dans ce domaine-là concernant la sciatique ?
En fait, on va essayer de dégager les contraintes qui sont exercées sur le nerf en question. Mm-hmm. Donc, ça peut être une hernie discale, donc à l'origine du nerf, mais ça peut être aussi sur tout le trajet du nerf. Donc, quand il va passer par... entre deux fibres musculaires, entre deux plans musculaires, entre des à côté d'une articulation, etc. Donc en fait, on va essayer d'examiner tout le trajet du nerf pour dégager toutes les zones de contrainte. Même si c'est au niveau d'une hernie discale, faut se poser la question pourquoi il y a une hernie discale à ce niveau précis. Et donc là aussi, on va mener notre enquête policière pour déterminer pourquoi cette zone a réagi en zone de contrainte. Voilà, et donc voilà, en fait, on va essayer de déterminer toujours la cause. C'est peut-être un problème postural, c'est peut-être un problème lié au dorsal ou au cervical ou au viscère, etc.
Donc, au-delà, bon, évidemment, vous allez poser un diagnostic, ensuite, vous allez faire des manipulations
manuelles.
Voilà. Pour soulager la douleur et décoincer les mécanismes, enfin je ne sais pas si j'emploie les bons mots, mais enfin pour faire que ça refonctionne.
Voilà, redonner de la mobilité.
Et vous allez donner, voilà, redonner de la mobilité. Et est-ce que vous allez donner justement des concepts quand tu dis au niveau posture ? Je suis sciée parce que justement, là comment je me tiens, et c'est un peu comme d'habitude devant mon ordinateur, c'est-à-dire n'importe comment. Est-ce que vous donnez aussi à vos patients des conseils justement, au-delà, on parlait tout à l'heure du tai chi, du yoga, mais juste, tiens, dans la vie. Comment marcher, comment se tenir,
comment assis, marcher, comment dormir,
comment
aussi
se coucher, voilà, oui. Par exemple, oui.
Exactement, ben oui, dans la vie quotidienne, en fait, c'est ce qui nous intéresse, c'est vraiment le terrain du patient, comment il dort, comment il mange, comment il se tient quand il est à l'ordinateur, ou comment il marche, combien de temps il marche, etc. Donc, tout nous intéresse concernant le patient. Et donc le patient qui dort sur le ventre avec un gros oreiller, on va lui proposer d'adopter une autre position.
Aïe.
Puisque cette position est extrêmement contraignante pour le dos et pour le bas du dos notamment.
Ah bah c'est pour ça. Voilà.
Moi j'avais deux questions. La première c'est par rapport aux hernies discales. Est-ce que l'ostéopathie peut être, par exemple, une prescription pour éviter l'opération ? Est-ce que c'est déjà arrivé que des personnes...
Prescription, on n'emploie pas ce terme-là, mais je pense que c'est une indication.
Ouais, d'accord.
Avant de passer par la chirurgie, ce serait peut-être intéressant d'essayer par les techniques manuelles, telle que l'ostéopathie, pour voir si ça ne règle pas tout à fait le problème. Si ça vient d'un problème viscéral, si le patient ne sait pas respirer avec le ventre, etc., s'il est constipé chronique, etc., on aura beau l'opérer au niveau du dos,
ça reviendra
un an ou trois ans ou cinq ans ou dix ans après, il va y avoir une autre hernie discale sur un étage sous-jacent.
Donc, est-ce que vous avez déjà vu, vous, enfin toi en l'occurrence, parce que pour l'instant tu pratiques pas encore, t'es pas encore installé, on va dire, mais t'as peut-être déjà eu des cas cliniciens, on va dire, enfin en tant que clinicien dans l'école, est-ce que vous avez déjà eu des cas tous les deux de gens qui étaient atteints d'hernie discale pour lesquels il était conseillé une opération et qui ont eu un résultat positif suite à des séances d'ostéopathie ?
Moi, j'ai souvent eu des patients qui ont subi l'opération chirurgicale et qui ne vont pas trop mieux ou la sciatique récidive après. Mais bon, j'incrimine pas la chirurgie parce que c'est... Parfois, c'est vraiment utile.
Ouais, ouais.
Non, ça appelle à une question que j'allais oublier il y a déjà une heure, je me disais ça. Est-ce que les gens Est-ce qu'on vient de plus en plus vous voir? Et est-ce que j'y pensais parce que tu dis, c'est vrai que c'est souvent, ça va être parce que la médecine, voire la chirurgie, n'a pas répondu aux attentes des personnes concernées, ou en tout cas, voilà, effectivement, des douleurs peuvent ressurgir, etc. Est-ce que vous sentez, je ne sais pas si vous avez le recul nécessaire, enfin, je veux dire, en tant que praticien, hein, pour vous rendre compte si oui ou non, de plus en plus de gens se tournent vers l'ostéopathie, avant d'avoir été échaudés, on va dire, entre guillemets, par la médecine traditionnelle, comment ça se passe? Quelles sont plus ou moins, justement, les personnes qui viennent vous voir?
Alors, nous n'avons pas 40 ans d'expérience, ni l'un ni l'autre, mais d'après nos collègues, et c'est vrai que les pouvoirs publics nous le montrent bien, de plus en plus de patients consultent en première intention les ostéopathes.
Ah, ben voilà, qui est plutôt positif, en tout cas pour...
De plus en plus chaque année, et de plus, les mutuelles de plus en plus remboursent les séances d'ostéopathie. Donc la sécurité sociale non, mais les mutuelles commencent à s'y mettre de façon vraiment intéressante.
D'accord, d'aucuns disent que ça reste encore des mutuelles pour lesquelles il faut cotiser
oui,
des grosses sommes, mais bon, c'est un premier début. Puisqu'on est dans le concret en fait, est-ce qu'on peut, peut-être que c'est variable aussi, vous allez me dire, mais combien coûte une consultation et... voilà, par rapport au, enfin, sachant que justement ça n'est hélas pas pour l'instant remboursé, comment ça se passe?
Donc la séance dure pour nous à peu près une heure et nous faisons payer 45€ la consultation. Voilà, les mutuelles remboursent parfois une partie, mais souvent non quand même, surtout les havrais.
Alors ah justement, oui, justement par rapport au coût de la consultation, évidemment en tant que praticien, il y a un système de charge sociale que vous payez.
Oui, bien
donc,
sûr.
Donc en fait,
Ursaf, Cancras,
voilà,
et Kerbalas.
Sur 45€, concrètement, combien vous revient à vous en tant que praticien?
Donc,
c'est ça qui est intéressant.
La question dans l'autre sens, c'est à peu près 65% qui est dédié à l'État.
Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est important.
Et la
de
TVA
le dire.
Aussi. Voilà.
Prends-en de la graine, Johnny Hallyday.
C'est important de le dire parce que justement, c'est une des remarques qu'on peut avoir souvent, c'est ouais, mais bon, l'ostéopathie, ça coûte cher. Ok, ça coûte cher, ça peut coûter cher, mais pourquoi c'est ce prix-là? C'est parce qu'il y a 65% qui s'en va dans autre chose que la poche du praticien.
Et voilà, exactement.
Le praticien, il faut bien qu'il mange aussi. Faut
et
bien
donc,
qu'il
une question intéressante aussi, c'est la TVA. Pourquoi nous payons la TVA? La TVA, nous ne vendons rien. Nous ne vendons surtout pas nos manipulations.
Non, mais moi, il me semble que la question n'est pas tant ceux qui partent. À bon ou à mauvais escient dans les caisses de l'État, mais plutôt pourquoi ça n'est pas remboursé et voilà, je veux dire, comment dire, c'est le cas de toutes les pratiques médicales, en tout cas qu'une partie passe non pas directement, comme on disait, dans la poche du praticien en question, mais ce qu'on aimerait surtout, c'est que ça soit reconnu et que ben voilà, les gens qui viennent se faire soigner puissent être remboursés.
Voilà, en premier lieu, nous, ce qui nous intéresse, c'est la reconnaissance. Il faut aller pas à pas, hein, crescendo. Si
d'ailleurs, on va étapes... peut-être parler, réannoncer la manifestation de
du mars. 4 mars, dimanche 4 mars 2007, qui se tiendra à Place de la République à 13h. Voilà, pour revendiquer l'ostéopathie. Donc c'est une manifestation pour rassembler les syndicats d'ostéopathie qui se sont fait préalablement un peu la guerre entre eux, qui maintenant se rassemblent pour la profession indépendante qu'est l'ostéopathie, donc ça c'est formidable, et pour les praticiens d'ostéopathie. Donc qu'ils soient médecins, qu'ils soient kinés, qu'ils soient ni l'un ni l'autre, c'est de rassembler les professionnels d'ostéopathes. Voilà.
Voilà, alors sans dire que c'est forcément le mot de la fin, ça, c'est déjà un thème final important et que bien sûr notre webmaster révéré Pierre mettra en ligne sur le site de Radio Apple Pie. Est-ce que, avant de conclure par la célèbre et tant attendue chronique de Cinéma Bis de Ludo, vous avez... vraiment des choses à rajouter qu'on aurait oubliées, des questions?
Oui.
Oui.
un petit mot sur l'EHEO, qui est une association d'enfants handicapés Espoir Ostéo, qu'avec Sophie, donc on participe, qui se passe tous les mois à Paris, à Chappé plus exactement, et qui consiste à soigner des enfants handicapés, donc moteurs et cérébrales, à plusieurs mains. C'est-à-dire donc tout le monde est invité, les étudiants, les ostéopathes professionnels, à soigner des petits enfants qui sont atteints de ces syndromes. Et donc le concept est de soigner cet enfant à plusieurs mains, c'est-à-dire à plusieurs praticiens. Donc d'une façon pareille, douce, d'une façon à l'écoute des tissus, et qui se passe de... Ah ça, je voudrais bien expliquer.
Déjà avant que, ou peut-être pour te donner le temps de réfléchir à ça, quels sont les types de handicaps concernés par ces pratiques ?
Alors là, il y a donc des insuffisances moteurs cérébrales, des syndromes comment on appelle
autistiques.
Autistiques, des syndromes d'Angel, on appelle celui-là le syndrome d'Angel. Donc ça, c'est donc pour en fait ce que
trisomie,
les trisomies, les trisomies 21 et tout ça. Ce que je veux dire, c'est que on va pas soigner évidemment le syndrome ou la pathologie en elle-même.
C'est permettre aussi un mieux-être peut-être. Exactement. Pour les malades, et puis aussi, je dirais, soigner entre guillemets les maladies parasitaires aux maladies qui sont la cause. C'est-à-dire que chez tel type de malade, il va y avoir par exemple une position antalgique, ou il va y avoir un autre traumatisme qui va se développer à cause de la première maladie. Je sais pas moi, chez un quelqu'un.
C'est plutôt pour permettre un développement harmonieux et pour pouvoir permettre à l'enfant un développement le plus qu'il peut.
Favoriser le mieux-être.
C'est pour prendre l'exemple, c'est les parents qui viennent nous dire après les consultations, après plusieurs consultations, que l'enfant va mieux, il sourit plus, il pleure moins, il mange mieux, il se réveille plus la nuit, il fait plus pipi au lit. Donc tout ça, c'est des petits détails qui, chez les parents déjà, qu'ont accompagné cet enfant qui est déjà assez dur, est énorme.
Bien sûr.
Déjà.
Oui, puis pour la personne concernée, enfin, l'enfant lui-même, en l'occurrence, ça doit être vraiment formidable.
Ouais, c'est un plaisir. C'est une journée qui se passe une fois par mois, et, dans laquelle les parents nous font à manger le midi, et puis nous, bénévolement, on vient apporter les soins.
Vous êtes nombreux à faire partie de cette association ?
C'est une association de parents d'enfants handicapés.
Oui, dont le directeur est d'ailleurs Sylvain Bélier. Et donc c'est
qui est directeur de tous les EHEO de France, parce qu'il n'y en a pas qu'à Paris. Il y en a deux à Paris, mais il y en a à peu près une dizaine en France.
Et pourquoi pas un jour monter une antenne au Havre ?
Ah ouais.
Exactement.
Ça serait pas mal.
Ah, complètement.
Au-delà de ça, c'était pas forcément pour dire que c'était terminé. Hein. C'était si on a oublié des choses. Et
voilà,
bon.
On voulait juste préciser ça.
Cela dit. Si pour le moment vous n'avez pas d'autres idées à nous suggérer, on va passer la parole à Ludo pour sa chronique, ce qui ne nous empêche pas de rester avec nous et puis éventuellement de reprendre la parole après.
Ça marche.
Entendu.
Tu mi dici è troppo tardi. Tu mi dici è finita per noi due. Mi ripeti che il passato non potrà tornare, ma no, non è vero, amore, e credimi, pensandoci, posso dirti il passato. No, e nessuno può viverli come noi due in un mondo che ci appartiene.
mi dire troppo tardi, non mi dire è finita per noi due, non mi dire che il passato non potrà tornare. Tu chiami passato la gioia di vivere, di esistere, di capire questa nostra realtà.
Giorni Cecchi Appartengono de Jennifer Yu, interprété par Mina, dont on reparlera un de ces quatre. Bande originale de la mort remonte à hier soir de Duccio Tezzari. Oui, certes. Et déjà et encore, allais-je dire, puisque le. Cette fois-ci, c'est la deuxième partie de la chronique entamée lors de la précédente émission. C'est rare qu'on le fasse, qu'on mette à ce point l'accent sur un éditeur vidéo. On va se le permettre, non par facilité, mais parce que l'éditeur est particulièrement actif. Rappelons-nous, dernière quinzaine, nous parlions des films d'exploitation de revanche ultra-violents mais à caractère social italien, avec le dernier train de la nuit, donc on annonçait avant même sa sortie. Entre-temps, le dernier train de la nuit est disponible actuellement, donc on peut s'y précipiter. En plus, Neo Publishing l'a agrémenté de quelques suppléments bienvenus, commentaires audio du réalisateur, interview du réalisateur, interview de Macha Merrill.
C'est ça surtout qu'on attendait.
Voilà. Et Neo, pendant ce temps-là, continue sur ses autres collections, parce que ça ne fait partie que d'un un des courants du cinéma populaire italien des années 60-70 qu'ils éditent. Hein. Parallèlement, ils font du polar urbain. On n'en parlera pas ce soir, et pourtant, il y aurait bien des choses à dire. Ils font du film de cannibale. Mais ce soir, on va s'attacher au giallo. Alors, le giallo, rappelez-vous.
Oui, oui, bien sûr.
Oui, hein, tu t'en rappelles. Hein. Oh là là, comme si c'était hier.
Exactement, comme si ça remontait à hier soir.
Le giallo, souvent évoqué dans cette même chronique, on ne s'est jamais réellement attardé sur un giallo, si je ne me trompe.
Probablement pas assez, en tout cas.
Voilà. Donc, pour réexpliquer très rapidement, giallo, ça vient tout bonnement de la littérature populaire à l'origine. Ce sont des livres édités par l'éditeur Mondadori, dont la couverture était jaune. Alors, pour schématiser assez outrancièrement, on dira que c'est l'équivalent italien de la série noire. Pascal, me contredira-t-il ? Me dira-t-il que je vais dans la simplification excessive ?
Non, on peut aller dans ce sens-là, oui, ça va, ouais.
C'est la série noire qui elle-même, au départ, était jaune ça, et noire.
Non, mais vas-y, justement, parce que...
Bah, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait les mêmes façons de faire au niveau des auteurs qu'ils avaient, etc. Donc,
voilà, justement.
Ça se démarque quand même dans ce sens-là, quoi, c'est ce que je veux dire.
Voilà, mais par rapport.
Dans les lignes de conduite.
Par rapport au giallo cinématographique, est-ce que les gialli. Parce qu'un giallo, des gialli, évidemment.
Bien forcément.
Voilà.
Ah, bah évidemment.
Est-ce que les gialli littéraires comportent, si tu en as lu, comportent déjà les bases de ce que va être le genre que nous allons traiter tout de suite, là, maintenant ?
Oui, bien sûr.
Voilà. Ok,
je confirme.
Ok, donc
le giallo en tant que genre cinématographique, donc dérivé de cette production littéraire, émerge historiquement au milieu des années 60 avec les films de Mario Bava, La fille qui en savait trop, et surtout le film fondateur, Six femmes pour l'assassin. L'autre maître du giallo qui prendra la relève, c'est Dario Argento, avec L'oiseau au plumage de cristal en 69. 70, c'est Le chat à neuf queues, pardon. 71, Quatre mouches de velours gris. Et puis, Les frissons de l'angoisse en 75. Donc, que ce soit Bava ou que ce soit Argento, ce sont à la fois les maîtres du giallo de par la qualité formelle de leurs films, de par aussi la réflexion constante qu'ils instaurent par rapport au genre. Alors le genre, qu'est-ce que c'est ?
Non, tu crois quand même pas qu'on va te le réciter comme ça.
J'en ai parlé.
Tu prends une petite partie de ta chronique. Certes, mais
Six femmes pour l'assassin de Mario Bava, le vrai film fondateur, instaure climat artificiel, salon de prêt-à-porter, des mannequins, donc des femmes sublimes, d'autant plus sublimées par les éclairages démentiels de Bava.
Un peu comme Arrête, j'appelle pas.
Un assassin ganté de noir, vêtu entièrement de noir, masqué mais surtout ganté de noir, qui tue exclusivement à l'arme blanche. De préférence des victimes féminines, mais pas exclusivement. Mais de préférence. Car
échappé belle.
T'as eu peur, hein? T'as eu chaud surtout.
Car le grand motif du giallo, dans cette Italie des années 60 qui se libère quelque peu du carcan, mais qui, comme au Japon, comme en d'autres endroits où...
Je ne sais pas, les années de plomb en Italie, c'est tout ce que j'ai à dire, mais sinon...
Oui, mais il y a quand même une émancipation vis-à-vis de la norme sociale et de la répression conservatrice religieuse.
Et donc voilà, une libération sexuelle.
Une libération sexuelle qui à la fois fascine, attire et fait très peur. D'où le motif central du giallo, que ce soit des films axés sur des tueurs ou des tueuses psychopathes, ou le giallo dit de machination, où là il va choisir d'empocher un magot avec lourd secret familial. Le motif central du giallo, c'est le meurtre. On connaît la fameuse phrase attachée à Hitchcock, filmer les scènes d'amour comme des scènes de meurtre et les scènes de meurtre comme des scènes d'amour. Ça colle à merveille au giallo. Le meurtre est mis en scène, il ponctue le film, comme on pourrait le dire dans du cinéma érotique ou du cinéma d'action, où de façon métronomique, un meurtre doit tomber.
Toutes les, ça
dépend si les films prennent des libertés avec les codes ou pas. Voilà. On va dire que 1 toutes les 10 minutes est une bonne moyenne.
Putain, ils font pas des séries, eux, hein.
On va dire ça.
Voilà. Et le meurtre en soi est la pièce de choix du film. Donc il va s'agir de travailler les éclairages, de faire monter la tension, de ne montrer l'assassin que par bribes, d'où la fameuse main gantée, le rasoir évidemment, dont on peut évidemment supposer toute la symbolique qu'il y a derrière, et la victime évidemment charnelle à n'en plus pouvoir, parfois nue,
mais oui, plus souvent.
Le plus souvent, on va arriver au film de ce soir. Donc là, c'est bon, je schématise énormément, mais disons que Bava et Argento sont les plus grands du giallo. À leur suite, il y a un gros paquet de cinéastes italiens qui ont travaillé dans à peu près tout, l'érotique, le péplum, le western italien, etc. Le giallo est un genre en soi, extrêmement codifié, mais dont les variantes sont intéressantes. Et pour finir sur son historique, les traces du giallo peuvent encore se voir dans des films plus connus du grand public. Je pense notamment à Pulsion de Brian De Palma, qui est vraiment le sur-giallo par excellence, où tout y est, l'atmosphère trouble, la musique sensuelle de Pino Donaggio, cette photo embuée qu'il faut découvrir en salle, la sexualité déviante, évidemment, le travestissement, l'ambiguïté sexuelle, et il parvient même à embrigader Angie Dickinson et Michael Caine dedans. Voilà. Autre cinéaste qui rendra hommage au giallo, c'est évidemment Tarantino dans Kill Bill, la scène de l'hôpital qui pioche à la fois chez De Palma et Argento et Fulci pour la musique.
Donc, Neo Publishing s'est lancé dans une campagne d'édition de Giallo, de Gialli, pardon, méconnue, et qui justement ne passe pas par Bava ni par Argento, mais par des petits maîtres de talents variables. Ah. Alors, à ce jour, les films sortis sont L'Homme sans mémoire de Duccio Tessari, Mais qu'avez-vous fait à Solange de Massimo Dallamano, La queue du scorpion de Sergio Martino, à les titres ont toujours une poésie certaine, oui, de Umberto Lenzi, à savoir, il y en a un qui... Le tueur à l'orchidée et dernièrement Spasmo.
Comme un spasmo.
Voilà, même. Voilà, qu'il ne faudra pas confondre avec Orgasmo qui existe aussi sûr. Dans le registre.
Non, quand même.
Et quand on a plusieurs, c'est Orgasmi.
Oui, ça va de soi.
Des spasmes, des orgasmes.
Si, voilà.
Moi, je suis, hein, je suis.
Et Radio Apple Pie, très en retard sur l'actualité en salle.
Oh, pour une fois.
Ah oui, non, je t'assure. Mais ceci dit, si un des cinémas d'art et essai du Havre parvenait à mettre la main sur une copie de Inland Empire de David Lynch, nul doute que je ferais une critique enflammée. Voilà, au passage.
Nul doute.
Nul doute. J'ai encore la foi.
Tes collègues chroniqueurs sont très tièdes de ce que j'ai pu entendre. Mais bon.
Voilà. Radio Apple Pie, en revanche, est en avance sur l'actualité vidéo.
Ouais.
Puisque de même que nous annoncions le dernier train de la nuit avant même sa sortie, ce soir nous annonçons Nu pour l'assassin, à sortir dans la collection Giallo de Neo Publishing le 19 mars. Donc cette chronique est rédigée à partir de l'édition américaine, bon, qui sera plus la peine d'acheter en import. Alors on marquera, titre original, Nudé per l'assassino, Nu pour l'assassin en français.
Là, tout va bien.
L'édition américaine parue chez Blue Underground, on en a déjà parlé, est déjà plus.
On porte déjà pour l'assassin, comme disait
une injonction. On passe du constat à l'injonction, puisque là, c'est Strip Nude for Your Killer.
Ouf, ah, carrément, ouais.
Un film d'Andrea Bianchi.
L'édition d'Arabie Saoudite et du Bahreïn, on n'en parle pas tout de suite.
Voilà. Peut-on faire un.
Je vous en prie, cher ami.
Bref survol de la carrière d'Andrea Bianchi. Pardon.
On en a très envie.
Tu en meurs d'envie.
Oh, ben oui.
Bon, d'accord. Alors, Andrea Bianchi s'est porté à ce jour coupable de environ 26 longs métrages. Pardon. Ah oui, oh, non, mais bon. Non, mais tu vas comprendre pourquoi il est dur de les répertorier.
Uh-huh.
Voilà. Donc commence sa carrière en 1972 de réalisateur, mais parfois il est aussi scénariste de ses films, il peut tâter du montage parfois. Il commence sa carrière en 72 avec Diabolica Malicia, multiples titres, bon, inédits à ma connaissance. Il opère par la suite sous différents pseudonymes. Alors on connaît les réalisateurs italiens qui ont une flopée de pseudos, 50, etc. On n'arrive pas à les retrouver, c'est un casse-tête pour les biographes. Lui, il se fait pas chier, Andrea Bianchi, c'est Andrew White, avec quelques variantes, une consonne en plus, une consonne en moins, on peut le retrouver sous le nom de A. Frank Drew White, Andrew M. White ou Frank Drew White.
Une traduction quasi-littérale de Bianchi, on va dire.
Voilà. En 72, il participe à une adaptation de L'île au trésor avec Orson Welles.
Oh.
Comble de malchance, il n'est pas crédité. Et ça continue. En 75, donc, il fait ce Nu pour l'assassin. Après, bon, il va continuer dans des choses de moins en moins recommandables, à vrai dire. Il va faire du softcore, il va faire du hardcore. Il va se retrouver embourbé chez les productions Eurociné, que j'ai déjà dû évoquer. Il va tourner le fameux, pour de mauvaises raisons, Commando Mengele, où des chasseurs de nazis partent à la recherche, voilà, de Mengele, qui a pour le coup un garde du corps pratiquant de kung-fu.
D'accord.
Le scénario est de Jess Franco dans ses tristes heures. Mais André.
Nobody's perfect. Comme...
Voilà. Andrea Bianchi, en fait, est connu en France pour un film et un seul.
Que même nous, on connaît ?
Non.
Non.
Je pense pas. Qui a contribué à forger la cinéphilie totalement déviante de ceux qui ont fait leur éducation cinéphilique, esthétique, voire sexuelle dans les vidéoclubs à la fin des années 80, début des années 90.
On dirait que ça te parle.
On dirait que ça te parle.
C'est le manoir de la terreur. Alors, le manoir de la terreur, donc, qui date de 81, est un ersatz de films de zombies comme les Italiens en produisaient beaucoup à l'époque. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il est surtout rentré dans l'histoire pour un de ses acteurs,
Le fameux, je suis en train de chercher son, je suis en train de chercher son nom.
Non, j'ai très. Est-ce que quelqu'un connaît l'acteur qui a joué dans le manoir de la terreur? Non, pas. Désolé. Bah écoute, ça sera en ligne. Hein. Ça te reviendra avant la fin de la chronique.
Voilà, je vais retrouver son nom. En fait, la particularité, c'est que le Bianchi a durablement traumatisé son monde en utilisant un acteur âgé de 25 ans qui a fait quelques films, mais qui était atteint d'une maladie de vieillissement prématuré, et l'utilise dans le rôle d'un adolescent.
Oui.
Voilà. Donc supposément mineur, avec des vêtements très ajustés, dirons-nous, une moumoute, l'acteur qui ne se prive pas de cabotiner dans un registre très expressionniste et qui surtout va développer vis-à-vis de sa mère des pulsions incestueuses qui culmineront et repousseront l'Œdipe dans ses...
Dernier retranchement.
Dans ses retranchements les plus anthropophages qui culmineront dans la dévoration du sein maternel.
Voilà. Dévoration évidemment au sens propre.
Dévoration au sens propre. Voilà.
C'est rarement figuré, faut vous dire. Je dis ça pour Sophie. Baptiste, il commence à s'en douter.
L'acteur en question est bien entendu Peter Bark, pseudo de Pietro Barcella. Voilà. Il fallait le retrouver. Alors, évidemment, partant d'un tel postulat, on se doute bien que quand on aborde un autre film d'Andrea Bianchi, on n'y va pas pour voir quelqu'un qui fait dans la dentelle. Pour faire dans la psychologie, le dialogue affiné, non.
On l'avait bien compris.
Non, absolument pas. Donc, ce nu pour l'assassin reprend un canevas pas si lointain, finalement, de Six femmes pour l'assassin de Bava, puisque là, ça ne se passe pas dans un salon de prêt-à-porter, mais dans une agence de photos.
Toujours un endroit où il y a des belles filles, quoi.
Voilà. Un des modèles est décédé quelques jours auparavant, lors d'un avortement. Le médecin crapuleux s'empresse avec un ou une complice qui restera bien entendu anonyme jusqu'à la fin du film de rapporter le macabé à son domicile, de le disposer dans la baignoire, et partant de là les meurtres se multiplient
à la c'est le fameux clic-clac
Kodak.
Voilà. À la grande.
Le canapé.
Donc, c'est l'occasion, entre deux meurtres, quand même relativement graphiques, de se pencher avec ce regard qui est très coutumier du cinéma italien de l'époque. C'est-à-dire, c'est à la fois la fascination du vice, mais en même temps le côté sensationnaliste, un peu scabreux. C'est un peu comme si Le Nouveau Détective était traduit en roman photo, en fait.
C'est pourrait être intéressant.
Un peu ça, voilà.
Il n'y a pas déjà eu
T'imagines le nouveau détective en nous deux, quand même. Faut le faire.
Il y a de ça. Et franchement, il y a de ça. C'est une façon de jeter un œil sur ce microcosme. Alors, le microcosme, de quoi est-il composé? Edwige Fenech, icône du cinéma populaire italien des années 70.
Oula. Pascal, ça a l'air de
Ah, ça y est, Pascal réagit.
Je prends la tête.
Oh bah Pascal, moi j'aurais dit tu te dandines du cul sur la chaise.
Voilà, brune.
Ça, c'est un point de vue d'hosto, toi.
Donc. Brune exquise qui a participé à maintes giallo, dont ceux de Sergio Martino. On peut citer L'étrange vice de Madame Wart. Ton vice est une pièce close dont moi seul ai la clé. Où toutes les couleurs de l'obscurité, dont je passais un morceau de la BO il y a au moins un an et demi. Voilà. Donc. Connu pour ça, mais aussi pour avoir interprété Emma Bovary en 69 dans une adaptation franco-italienne.
Moi, je la voyais pas comme ça. Je pensais que le bovarisme, c'était pas ça, tu vois. C'était plutôt une philosophie qu'une pratique.
Je suis désolée,
mais
Flaubert n'a rien dit là-dessus. Hein, donc... On peut, l'imagination est au pouvoir, y compris dans les textes de Flaubert, donc je ne vois pas pourquoi.
Ce n'était pas réellement un lapsus.
Tiens, sans blague. Ludo, après réaction du public autour de la table, a dit ce n'était pas vraiment un lapsus. Et évidemment, on ne s'en doutait pas du tout.
Mais on montrera
en 69. Non, après, là, ça...
Oui, non, mais voilà. Bon, voilà.
Faut suivre, hein. Mais...
Et Louis Fenech a poursuivi sa carrière à la fin des années 70 dans le genre le plus régressif qui soit, dont on parlera un jour, mais alors là, il faudra s'armer de courage.
Oula, surtout nous,
et d'indulgence. Ah. La sexy comédie italienne qui est toutes les... la toubib du régiment, la toubib aux grandes manœuvres, la doctoresse ceci, la prof cela, etc.
T'es vraiment sûr qu'il faudra en parler absolument au micro de Radio Apple?
Bon, vers... On s'armera de courage, mais ceci a quand même son importance, parce que autant c'est chez Sergio Martino, Edwige Fenech est magnifié, tout du moins dans certaines scènes, autant dans ce Nu pour l'assassin, on la croirait déjà dans sa carrière de cinéma érotique, tant le réalisateur visiblement ne la dirige pas, et en fait, j'allais dire quasiment une nunuche, elle est le seul personnage du film... À n'avoir pas compris, et jusqu'à la fin, ce que le spectateur a évidemment saisi dès les prémices. Ce qui est extrêmement dommageable. Edwige Fenech compose un duo d'enquêteurs avec Nino Castelnuovo. Alors, une filmographie monumentale à son actif. Et
les parapluies de Cherbourg.
Et Rocco et ses frères.
Ouais, bon, ouais, quand même.
Il faisait comme frère.
Il faisait un dénommé Nino Rossi. Et je me rappelle plus exactement. Il faudrait revoir l'intégralité de la filmo du bonhomme. Je peux te dire qu'il y en a.
D'accord.
Bon. Il n'a pas une vie très longue, non ?
Possible. Possible. À l'époque où j'ai vu Rocco et ses frères, je ne m'étais pas encore penché sur le cas de Nino Castelnuovo. Voilà, voilà, voilà.
Une vie très longue à la vie. On est d'accord ? Bon.
Voilà.
Il n'y a même pas de contre-pétri. Oh.
Et donc, dans ce microcosme, gravitent évidemment des mannequins, dont Fémi Benoussi, qui elle aussi a une carrière assez coquette dans le cinéma italien, puisqu'elle fut Tarzana. Voilà, dans une adaptation de Tarzan topless, à la fin des années 70, un film de Guido Malatesta. On pourrait aussi citer la directrice de l'agence qui entretient avec Fémi Benoussi justement des rapports fondés, il va de soi, sur la domination, quoi. On pourrait citer le mari de la directrice de l'agence, personnage qui correspond tout à fait au type du vieux cochon lubrique.
Tel un certain Roger, dont on ne dira pas le nom.
Ouais, voilà, il y a un peu de ça. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, hein, bon, voilà, c'est Andrea Bianchi, on est en 75, c'est là, pendant que Dario Argento fait avec Les Frissons de l'Angoisse quasiment la pierre terminale du giallo, Andrea Bianchi, c'est la décadence. Ce film est un film décadent.
Mais alors, voilà. Bon, où y a... Je sais que ça ne se fait pas de couper les chroniqueurs, mais enfin bon. Comment dire Les fans de Cinéma Bis et de Dario Argento et de Brava, etc., vont probablement aimer. Tes propres aficionados, si je peux dire, aimeront vraisemblablement aussi. Et nous, en fait, si on le voit...
Si vous le voyez, il est probable que vous trouviez ça très drôle. Ah. Alors, c'est-à-dire, il est probable
c'est
que...
C'est plutôt un bon point.
Voilà. Alors, pour être plus explicite, il est probable que vous disiez dans un premier temps, mais... C'est quand même un prétexte à montrer une avalanche de nudité féminine, ce qui est vrai, ça demeure très soft. C'est également un prétexte à montrer des scènes de comédie qui sont quand même bien épaisses. Et c'est un prétexte à montrer des scènes gore qui sont relativement poussées pour l'époque. Je sais qu'en bonne féministe, vous vous attarderez sur la place de la femme, mais également la place de l'homme, parce qu'il faut dire que si la femme est évidemment objet de convoitise et évidemment énormément utilisée pour son aspect charnel, l'homme, le mâle latin, est totalement ridiculisé. Est également totalement ridiculisé. Donc ça va du... Mais oui.
Ben voilà qui nous rassure.
Donc ça va de l'époux cogneur qui, à l'issue d'une séance de tranchi-trancha avec le tueur ou la tueuse, qui sait. Voilà.
Il nous aura tout fait.
perdra cette virilité à laquelle il tenait tant. Enfin,
on sait ce qu'il a tranché.
Ça va du prétendu héros de l'histoire, Nino Castelnuovo, qui ne rate jamais une occasion d'étrangler sa partenaire Femi Benouchi.
Mais il n'arrive pas.
Si, si, il l'étrangle, alors, et elle reste. Hein.
Mais elle s'était.
Jusqu'au mari de la patronne de l'agence, donc caractéristique du vieux cochon à 10 peufs, qui ne cesse de se lancer dans des plans drague douteux, et qui finalement, au moment d'arriver à ses fins, ne peut plus et se rabattra avec tristesse sur sa poupée gonflable.
Oh. Alors que s'il avait appris à.
Non, c'est gonflé.
Manipuler des organes.
Alors, quand cette même année 1975, en France, un dénommé Jean-Claude Lorieux tournait Les Bijoux de famille, dans lequel un nigo croyait encore qu'il pouvait conquérir une jeune fille en lui proposant une lecture d'un ouvrage probablement assommant préfacé par Antoine Pinet.
Ouais ben non.
Ah oui, effectivement, ça donne à penser.
Il aurait pu s'appeler Onvla.
Le spectateur non familier de ce type de film pourra aussi y trouver une bande-son de Berto Pisano qui trouve vraiment l'exact équilibre. C'est-à-dire à la fois entre l'influence Blaxploitation avec guitare wawa, violon à la shaft, cœur féminin langoureux, parfois désembardé dans la musique de porno soft, parfois de la musique plus atmosphérique, et surtout pour conclure, j'allais dire ce qui caractérise aussi ce film, qui évidemment n'atteint absolument pas les sommets formels des maîtres du genre, c'est vis-à-vis des thèmes abordés, que ce soit évidemment la domination, l'avortement, conditions sordides, le meurtre.
Ou c'est presque rien, le meurtre,
etc. C'est-à-dire que, évidemment, le film brasse ou évoque quantité de thèmes ou de situations scabreuses, et le fait avec une légèreté, voire une inconséquence absolue, mais alors qui s'appelle absolue, qui se retrouve jusque dans la fin que je ne dévoilerai pas.
Ah non.
Voilà, qui n'est
contrairement à Antoine Pinet quand il nous avait parlé de sa prospective de francs, enfin, rappelle-toi.
Fin qui non seulement refuse le happy end, mais en plus se permet de terminer sur une note prétendument humoristique, absolument déplacée, gratuite, graveleuse, idiote, et sur laquelle Berto Pisano enchaînera sa musique d'érotique soft. Et alors, cette espèce de je m'en foutisme qui n'existe absolument plus dans la production actuelle, qui crée des contrastes assez saisissants d'une scène à l'autre, provoque évidemment le rire et en même temps une nostalgie certaine vis-à-vis de ce cinéma quand même dégagé de toute contrainte, même s'il n'est pas forcément toujours, à la hauteur de ses ambitions.
Bravo Ludo.
On n'a pas besoin de chercher si loin. Non, on n'a pas besoin de chercher si loin. On trouve ce qu'on veut à côté de chez soi. Des sourires, des aveux et des langues de bois qui t'alanguissent pour laisser fondre ton cerveau. Un joli petit brouillon. L'amour de son prochain, on verra ça demain. Avant tout, faut bien s'occuper de sa petite personnalité. Les autres ont tant de défauts que dans tout ça, mon petit écho va se noyer, mon Dieu, je le crains, dans l'amour de son prochain. Pas besoin, non, n'a pas besoin, on n'a pas besoin
de chercher si loin. Non, on n'a pas besoin de chercher si loin. C'est être entre amis, le vrai paradis. De tribu en tribu, on a le dessus sur tout ce qui menace notre carapace. Car aux différences, nous on y pense. On pense à l'amour de son prochain. Que du bien, mais on a tous notre territoire. Et là, tu vois, on veut pas d'histoire. On peut toujours en discuter entre tribus civilisées. D'accord pour l'amour de son prochain, s'il m'est prouvé que c'est un petit peu bien. Non, non, il faut pas se laisser faire. La vie n'est pas un grand mystère. C'est dans l'amour de son prochain qu'il faut envisager demain. Non, 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 il faut pas se laisser faire. La vie n'est pas un grand mystère. C'est dans l'amour de son prochain qu'il faut envisager demain. Non, 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 il faut pas se laisser faire. Non, 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 il faut pas.
Une petite annonce avant de se quitter quand même, pour les Havrais évidemment, mais peut-être que dans vos villes aussi c'est possible d'entendre réciter et chanter du slam. En tout cas, ici au Havre, tous les mardis, au Melting Pots, et c'est 21 rue Robert, hein, rue Robert de la Villervée. Eh bien, tous les mardis donc, à partir du 6 mars, vous pouvez écouter du slam avec Petit Corsin. Vous pouvez penser à quelque chose, hein, ça. Petit Corsin, tous les mardis, à partir du 6 mars.